I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ok, Lamborghini Pape. Le Pape, il y a une Lamborghini.
Okay? Hein?
Ah oh, ouais, ça marche. Je mettais ça en combo avec mon Gritchis au micro.
Conférence devant 4 personnes.
Ok.
4 personnes. Ok.
Oui.
Bonsoir et bienvenue au show des Trois Flots tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur les ondes de CJMD 96.9, la radio de Lévis. Ce soir encore et encore un gros show pour la Saint-Patrick. Mais j'aimerais commencer le show en disant joyeux Saint-Patrick.
Merci.
Les Flots.
Merci.
Les Flots. Oh, et là on entend une nouvelle voix. On entend une nouvelle voix au micro, mais c'est pas ta nouvelle voix.
Non, vous l'avez entendu la semaine passée.
C'est son deuxième show officiellement en tant que, on va le dire, en tant que Flot.
Oui, 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 on peut lui donner ce titre-là. Elle l'a mérité la semaine passée. Avec son excellent show de radio.
Et voilà.
Merci,
et voilà.
Encore de m'accueillir. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir, les maîtres de la radio.
Les maîtres. Rien de moins.
C'est qu'elle a vu qu'on était en contact, puisque vendredi dernier, tu sais, c'est le comité, le salon des communications.
Oui, mais oui.
Et il y avait notre cher ami Alain Dufresne,
ah,
qui était
Alain.
Présent avec une table sur le CRTQ. Donc, j'ai présenté Lily Rose.
Et on va se dire, Alain a dit que je faisais un très, très bon travail, puis que grâce à lui, votre émission était meilleure.
C'est vrai.
Okay. Grâce à ton travail ou grâce à Alain? Parce qu'Alain nous a bâché un peu pour nous donner des trucs.
Alain nous a bâché en fait devant Lily Rose en disant de façon la plus sarcastique que j'ai vue. Oui, leur show est très
structuré. Organisé.
Sacré Alain.
Non,
on t'aime Alain.
On shout out à Alain Dufresne. C'est lui le grand maître, le roi de la radio. Et avant de présenter notre invité pour la Sainte-Patrick,
oui.
J'aimerais juste faire un shout out à Pierre. En fait, Pierre, tu sais, à chaque année, je vais dans une cabane à sucre.
Oui, mais oui.
Et à chaque année, je fais un shout out.
Quelle ceinture là?
Parce que dans le fond, ben je vais l'expliquer à l'invité aussi. C'est que mon ami, son oncle, a une cabane à sucre. Et c'est comme une genre de mini-sec, puisqu'ils ont tous des échelons. Donc lui, le grand maître de la cabane à sucre est échelon 7. Mais à chaque année, moi, je deviens d'échelon en échelon. Je travaille pour, tu sais, je coupe du bois, je fais le sucre d'érable, wow. Finalement. Et hier, je suis devenu échelon 1 1/4.
Wow!
Ouais, j'ai monté parce que c'est moi qui enlevais la mousse dans le sirop d'érable et
ouais.
J'ai fait des avec le 4 roues, j'ai fait des allers-retours de bois. Fait que watch out.
Tout un sucrier.
Sur ce point très peu pertinent pour la Sainte-Pat, on s'est dit qui qu'on pourrait avoir pour célébrer la Saint-Patrick. Saint-Patrick égale bière.
Ben oui.
Et bière égale microbrasserie. Et microbrasserie égale Hugo Charland. Ça va bien, Hugo?
Ben oui, ça va bien, vous autres.
Yes, ben super. Oui, très content de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci de l'invitation.
Est-ce que, premièrement, tu pourrais juste te présenter pour le monde qui ne saurait pas t'es qui par nom?
Ben, en fait, je me doute que personne ne sait.
Ah, on ne sait pas encore!
C'est bien correct, je ne suis pas une vedette. Écoute, premièrement, d'abord et avant tout, je suis un ami à Lily Rose.
Oui!
Je pense que c'est ici pour ça, entre autres, que je suis là aujourd'hui. Je suis copropriétaire puis brasseur en chef de la microbrasserie Brasseur sur demande dans Limoilou. C'est une petite brasserie qui opère depuis déjà un petit peu plus que 6 ans. On est bien implanté au cœur du quartier. Puis ben, ça me fait plaisir d'être ici dans la Saint-Patrick avec vous autres pour jaser de bière.
On est vraiment contents. Et en plus, moi, j'ai entendu beaucoup parler de cette entreprise-là, justement. T'sais, beaucoup d'entreprises qui font faire leur propre bière pour leurs employés, pour des parties, des choses comme ça. J'en ai bu des bières de brasseurs sur demande.
J'en ai apporté d'ailleurs, s'il y en a qui ont soif plus tard dans l'émission.
Ouais, je pense que je vais pleurer.
Sam, il pleure, là.
Je vais te prendre par les émotions.
On sait comment gagner mon cœur. Mais oui, mais là, on sait que t'es justement t'es un entrepreneur implanté justement dans ce milieu-là. Mais on sait que t'as quand même un background et un parcours assez, je dirais, atypique.
Ouais. C'est pas. J'ai pas fait de la bière toute ma vie. Avant ça,
il en buvait.
Oui, c'est ça.
J'en bois depuis longtemps, c'est vrai. En fait, je faisais d'autres choses. J'avais ce que j'appelais mon ancienne vie. J'étais artiste de scène avant. Je faisais de la tournée dans un band. J'ai fait ça pendant un petit peu plus de. Quasiment 4-5 ans. Puis avant ça, je faisais pas mal, plein de petites jobines qui gravitaient autour du monde de la scène. Là. Chanteur, comédien, animateur de foule, des trucs comme ça. Là. Ça a été ma vie avant le monde de la bière.
Mon Dieu, mais ça a commencé comment? Parce que là, tu nous as dit que tu as étudié dans le même pavillon, le super Cazo, l'église de l'Université Laval. Mais est-ce que directement après le Cazo, ça a commencé ou tu étais déjà implanté dans le milieu de la musique pendant que tu étudiais?
Non, pas du tout. J'ai pris la décision adolescent de faire de la musique mon métier. Okay. J'ai étudié en musique classique comme chanteur au Cégep Sainte-Foy à l'Université Laval. En sortant de là, je savais que j'avais pas les outils pour faire ce métier-là encore. C'est pas un programme qui est destiné à former des travailleurs du monde de la musique.
Ouais. Mm-hmm.
Puis je m'étais développé une petite passion pour la comédie musicale pendant que j'étais là-bas. J'avais fait des comédies musicales au parascolaire. Fait que j'ai décidé, pourquoi pas poursuivre là-dedans. Ça me donnait un autre corps dans mon arc. Ouais. Chercher des attitudes en jeu. Fait que j'étais allé étudier au cégep de Sainte-Thérèse au programme de théâtre musical. En sortant de là, 4 ans plus tard, parce que oui, j'ai fait, si vous faites le compte, j'ai fait quasiment 8 ans de cégep. Je le dis avec beaucoup de fierté. Pas que c'est, je le conseille à tout le monde, mais bon, ça a été ça mon parcours. Je suis sorti de là, fait que j'ai couru toutes les auditions que je pouvais courir. J'ai tiré un petit peu sur tout ce qui bougeait. J'ai fait du théâtre pour enfants. J'ai fait de la comédie musicale à petite échelle, puis à plus grande échelle.
Oui.
J'ai été dans un band de heavy metal pendant un moment qui a fait bien du bord à Montréal pendant un bout aussi. J'ai vraiment tiré sur tout ce qui bougeait en espérant un jour que ça décolle. Puis, veux pas, le métier-là, des fois, ça peut prendre du temps avant que ça décolle. Ça a été mon cas. J'ai pas eu de travail régulier. J'avais une job-in, comme tout le monde. Mais j'ai vraiment trouvé ma niche en 2013 avec un band qui s'appelle Alter Ego. Alter Ego, c'est un show band qui fait le tour du monde depuis des années. Ça existe depuis maintenant quasiment 25 ans.
Okay.
C'est une revue musicale, un peu comme Elvis Story et ces affaires-là, sauf que eux autres, leur concept, c'est qu'ils voient toutes les hits des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Puis chaque fois qu'il y a une toune qui est jouée, le concept, c'est que le chanteur ou la chanteuse personnifie l'artiste original.
Ah, oh, c'est génial!
Fait que quand on arrive et qu'on fait un medley de Katy Perry ou un medley de Lady Gaga, ben la chanteuse est pareille comme Lady Gaga, elle bouge comme Lady Gaga, elle chante pareil quand comme même. Elle a les mêmes costumes, la chorégraphie en arrière, c'est les mêmes costumes que dans le vidéoclip.
Wow.
Chaque tableau est une espèce d'hommage à un artiste, si on veut, ou à une décennie, ou à un mouvement musical, que ce soit le hip-hop des années 90, que ce soit le disco, peu importe. Le concept, c'est de la personnification de Razen. C'est un show qui dure 1h30 à 2h, puis au-dessus de 200 changements de costumes. C'est ce que je dis souvent, c'est que c'était show. Ce que je disais à l'époque, c'est que ce spectacle-là, le vrai show se passait en arrière-scène. Quand on a regardé les changements de costumes, là, c'était rodé au quart de tour. C'était vraiment impressionnant à voir. Puis j'ai fait ça pendant quasiment 4 ans de temps. Puis ça a été
ce travail-là, comment tu l'as obtenu avec cette belle-là?
Une audition.
OK.
Comme j'en ai passé des centaines durant après mes études.
Puis c'était un open call, il était affiché.
C'était pas un open call, il cherchait un chanteur avec un profil particulier. Quelqu'un
qui était capable de s'habiller comme Katy Perry.
Ouais, exactement. Non, tu te doutes que c'était pas moi qui le faisais, Katy Perry. Mais oui, non, j'ai fait ça. J'étais passé l'audition, puis j'étais à la bonne place au bon moment. Probablement que si. Tu sais, j'ai jamais eu la prétention que j'étais le meilleur dans ce que je faisais, mais cette fois-là, je fitais le bill, si tu veux, puis j'avais le profil qui était recherché. Donc, j'ai été chanceux. C'est souvent de même dans ce métier-là, hein, t'es chanceux, tu persévères, t'en fais des auditions, puis c'est pas parce que t'es pas bon que t'es pas pris, mais à un moment donné, faut que le timing soit bon, tout simplement. Puis, ça l'était.
En plus, avec le background de comédie musicale, me semble, c'était parfait. C'était, oui, c'est ça, tout était là.
C'était parfait parce que moi, je suis sorti de l'école de théâtre musical puis je savais que je ne jouerais jamais Shakespeare dans le parc parce que je n'étais pas, pas un grand comédien. J'avais pas la fibre. J'étais pas un grand amateur. J'avais pas une grande passion pour le théâtre, à proprement dit. C'est juste que je trouvais ça le fun sur scène de pouvoir jouer en chantant. Fait que le concept de faire de la personnification, c'était comme c'était parfait pour moi. Là. J'étais limité en mes talents de comédien, mais pour ce que j'étais capable d'amener à ce show-là, c'était parfait.
Oui.
C'était vraiment parfait.
Puis, t'as converti ce talent-là de chanteur en chef brasseur d'une microbrasserie.
Ouais, ben ça s'est pas fait en claquant des doigts. Là.
C'est quoi, t'as-tu le même trip que tous les gars y ont dans leur vie en se disant. Ah, il me semble que j'ai le goût de faire ma bière, puis toi, ça a finalement popé pour de vrai.
Ah oui, t'as mis le doigt dessus.
Ouais.
En 2000. Ouais, là, tu me plonges dans mes souvenirs. À peu près en 2020.
Non, c'est quand même 7 ans après. Ouais,
en 2016. Ouais. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais dans le band. Puis, veux pas, quand tu fais de la tournée comme ça, t'es pas souvent chez vous. Puis quand t'es chez vous, ben, t'essaies de profiter du temps que t'as pour faire ce que t'as à faire. Ton lavage, ton épicerie, ranger ta maison, passer du temps avec ton conjoint, ta conjointe. Puis, à un moment donné, j'étais comme, ça me prendrait un autre hobby. Mm-hmm. Parce que là, j'étais en musique à 100%, puis j'étais comme, il y a trop de focus qui est mis là-dessus. Ouais. Je me dis, moi, j'aime ça la bière, j'en bois de la microbrasserie. Pourquoi j'en ferais pas chez nous à temps perdu quand je suis chez nous? Fait que... Ma blonde, à l'époque, m'a comme donné un certificat cadeau pour que j'aille me grayer un petit peu d'équipement de brassage, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma première brasse, puis je m'attendais à ce que ça goûte vraiment la marde. Puis finalement, c'était vraiment bon.
Ah ouais?
Ah ouais. Je suis tombé sur le cul de voir comment, avec si peu de connaissances, on arrive à faire de quoi d'aussi intéressant. Oh. Puis là, j'ai fait, attends un peu, là. Si j'arrive à faire de quoi d'aussi bon avec le peu de ressources que j'avais à sous la main, j'ai fait, qu'est-ce que c'est si vraiment je m'investis dans ce hobby-là, que je vais me chercher des connaissances à plus approfondies, si je vais m'entourer de gens qui connaissent ça plus que moi. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai acheté tous les livres qui existaient. J'ai lu, j'ai regardé toutes les vidéos sur YouTube que je pouvais trouver. Je suis tombé là-dedans de façon totalement autodidacte.
Ouais.
Puis pendant les deux autres années qui ont suivi, j'ai dû brasser, je te dirais, à peu près 3-4 fois par mois chez nous des différentes bières. J'ai dû faire 200 bières en dedans de 2 ou 3 ans. De format brasseur maison, si on veut.
Oui.
Fait que quand est venu le temps pour moi de choisir une autre carrière, parce que je veux pas faire de la route, être tout le temps dans un autobus de tournée, un avion, une chambre d'hôtel, ça use, puis je veux pas, j'étais fatigué après 4 ans de tournée.
Oui.
J'avais envie aussi de plus de stabilité. Ma conjointe et moi, on voulait une maison, on voulait des enfants. Pis c'était plus difficile avec ce métier-là. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien comme deuxième carrière? Ça me tente pas d'enseigner la musique.
C'était une de mes questions en plus.
J'ai jamais eu la vocation d'enseigner. Pour moi, j'étais entouré de gens avec des talents immenses qui, pour eux autres, ça fait partie d'eux autres, être enseignant.
Mm-hmm.
Puis moi, j'ai jamais eu cet appel-là. On était à une époque où la microbrasserie était en pleine explosion. On était en 2017-2018. C'est flou dans ma mémoire. Là. Mais il explosait une nouvelle microbrasserie sur le marché à tous les mois à cette époque-là.
Ouais.
Je me suis dit, le timing est peut-être bon pour moi de me servir de ma deuxième passion qui est de faire de la bière maison pour aller me chercher un nouveau métier. Puis en plus, si je peux être engagé dans une microbrasserie avec le background que j'ai là, puis apprendre mon métier puis être payé en même temps, j'étais là, ça serait
une pierre deux coups.
Deux pierres deux coups, exactement. Ouais. Fait que j'ai appliqué sur la première job à microbrasserie que j'ai trouvée, c'est-à-dire assistant brasseur à l'île d'Orléans, microbrasserie de l'île d'Orléans.
Okay.
J'ai passé une entrevue, j'ai eu la job. Puis j'ai annoncé à mon producteur le lendemain que je quittais le groupe, puis que je me lançais dans le vide. Je laissais tomber 8 ans de cégep et énormément d'années à faire des auditions et à réaliser mon rêve de musicien. Pour me lancer dans quelque chose que je ne savais pas si j'aimerais.
Puis est-ce que c'était un petit deuil de laisser cette carrière d'artiste-là de côté?
Oui. Ah, ouais. Ça, on pourrait faire 2 heures de radio juste là-dessus. Là. Puis, mais oui, ça a été difficile. Là. Écoute, tu passes d'un trip extraordinaire de te faire applaudir plusieurs soirs par semaine, des fois devant des milliers et des milliers de personnes, à découvrir une nouvelle ville, à faire le tour du monde, à découvrir... À vivre des expériences que le commun des mortels ne vivra pas, veut pas, parce que c'était mon rêve de faire de la tournée. À pogner tes bottes de robeur à tous les jours, puis ta salopette, puis aller faire du nettoyage. Parce qu'on se le cachera pas, faire de la bière, c'est 80% de faire du nettoyage, à la base. Fait que c'était... On passait de quelque chose d'extrêmement... Je sais pas comment le dire, mais... glorifié, si on veut, d'une certaine façon. Un peu irréel de vivre le rêve que ben des gens vivront jamais, à faire un truc extrêmement concret avec mes mains. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans pour moi, de romantique, dans le dire je m'en vais faire quelque chose qui n'est pas juste pelleter du rêve. Parce que faire de la musique, c'est bien beau, là, tu t'applaudis, mais tu chantes quand même. On chantait quand même les chansons de quelqu'un d'autre. J'étais pas en tournée avec mon
band. Ah, je comprends, oui.
Avec mes tunes, j'avais tout le temps un petit peu le sentiment d'imposteur là-dedans. Puis j'avais l'impression, avec le temps, que c'était pas super concret. J'avais pas l'impression de contribuer à la société d'une certaine façon. Alors que de me lever à tous les matins et d'aller faire quelque chose de mes mains avec à la sueur de mon front et de. Ça, pour moi, c'était très concret. Il y avait quelque chose de complètement différent que j'avais pas avec mon ancien métier. Même, je ne dénigre pas le métier de musicien, jamais. Là, je pense que pendant la pandémie, de se faire dire que tu n'es pas essentiel par le gouvernement, ça a été difficile pour beaucoup de mes amis du métier. Puis je suis pas sûr que je suis prêt à dire qu'être artiste, c'est pas essentiel. Moi, je m'en irais pas là. Par contre, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose de très concret en faisant de la bière. Puis pour moi, c'était épeurant parce que je savais pas si j'aimerais ça. Puis les premières semaines ont été excessivement difficiles. Les premiers mois aussi. Ouais. Je retournais chez nous, puis j'avais plus le thrill que j'avais de me lever à 2h du matin pour aller pogner mon vol pour m'en aller, mettons, en Chine ou en Inde ou à Las Vegas pour donner des shows. Je m'en allais à l'île d'Orléans dans une shop où il faisait 40 degrés Celsius. Ouais. Dans la grosse humidité, j'avais plein de mouches autour de moi.
C'était plus glamour, là.
Il n'y avait plus de glamour. Puis c'était correct, je le savais, je m'embarquais là-dedans. Mais il y avait une espèce de ballon qui avait éclaté, qui m'a éclaté à un millimètre de la face. Mais heureusement, j'ai aimé ça. J'ai eu le coup de foudre. C'est juste que ça a été une période d'adaptation qui était un peu compliquée. Puis une chance que j'ai eu ma blonde pour moi, avec moi pour me supporter là-dedans parce que ça aurait été peut-être un... une lune de miel qui a été d'une courte durée. Oh.
Ouais, parce que c'est ça, dès le début, justement, tu as eu ta passe de « est-ce que je fais la bonne idée? » Mais est-ce que ça a pris combien de temps à peu près pour se dire « ah, finalement... »
Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Ouais.
Une chance.
Mais quand le groupe il est mort, dans le fond, là, c'est là j'ai réalisé.
Heureusement pour eux, le groupe existe encore. Ils font encore des super belles gigs, là, puis ça roule bien leur affaire. Je leur souhaite tout le succès du monde. C'est encore mes amis. Mais non, je te dirais, je l'ai su tout de suite que j'aimais...
Okay.
Ça a pris quelques semaines. C'est juste que c'était le côté, genre, la vie, il y avait quelque chose d'excitant de faire de la tournée puis de faire de la musique. Puis ce côté excitant-là est mort du jour au lendemain.
Ouais.
Toutes les journées étaient un peu différentes. Je savais, des fois, je me réveillais, je savais plus dans quelle ville j'étais. Puis,
oh mon Dieu, mais c'est hot. OK, c'est bon.
C'est le classique.
C'est ouais, cool, ça.
Alors que là, il y avait un... fallait que je me lève le matin, puis il fallait que je me couche à tous les soirs à la même heure pour être en forme le lendemain. C'était un 180 total.
C'est devenu normal rapidement.
C'est devenu normal assez rapidement, oui. Sauf que c'est il y a eu la réalisation que tout ce que j'avais laissé derrière, c'était fini.
Ouais.
Ça, je pense que mentalement, j'étais pas prêt à ça tout de suite. Mais je me suis toujours dit, je me garde la porte ouverte, je suis capable de revenir si je veux jamais, je me rends compte, ça marche pas la microbrasserie. Si ça lève pas, non.
Ce bagage-là reste.
Oui, c'est ça, je l'ai encore. Là. Si jamais, c'est sûr que je me relance dans une spirale éternelle de passer des auditions puis de retrouver de quoi qui était aussi cool que mon ancien projet.
Oui.
Mais c'était toujours là, j'avais toujours une porte qui était ouverte au cas où. Mais voilà, fait que c'est ça, je me suis fait engager là-bas. Puis après, à peu près un an et demi, on a su que la brasserie serait démolie pour faire place à de nouvelles installations. La brasserie avait été achetée par un conglomérat de brasseries belges.
Oui. Okay.
Puis ils ont décidé d'investir plusieurs millions de dollars dans la refonte et la restructure de la brasserie. Ce qui impliquait que moi et notre brasseur en chef, on tombait comme au chômage. Moi, ça me plaisait semi comme idée. je venais d'abandonner une carrière, de retomber au chômage pendant un petit bout. Puis là, on était sur le projet de faire un enfant avec ma blonde. Le timing n'était pas bon pour moi. Même si je trouvais que le projet de la nouvelle brasserie, hyper sophistiqué avec des nouvelles cuves et tout, un nouvel kit de brassage à la fine pointe de la technologie, c'était stimulant. L'aspect chômage me plaisait même. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à regarder c'était quoi mes options. J'ai mis un poste s'ouvrir dans une microbrasserie à Québec qui s'appelle Brasseur sur demande, mm-hmm. comme pour brasseur. Puis j'ai décidé d'aller les rencontrer. Bon, j'ai même pas envoyé de CV, rien. Je me suis juste assis avec eux autres. Je me suis présenté. Je leur ai dit, ça, c'est mon background. Je sais que vous cherchez quelqu'un. Puis j'ai été engagé comme brasseur. Je me suis joint à une équipe de 3 brasseurs qui étaient déjà sur place. Il y avait 2 autres actionnaires aussi dans le lot qui étaient déjà... qui faisaient partie de l'équipe. Puis ben, la première année, ça a été ça. Je me suis joint à cette équipe de brassage-là. Puis petit à petit, cette équipe-là a commencé à tomber un peu comme des mouches. Il y a des gens qui ont quitté le bateau. Puis il y a un changement au sein du groupe d'actionnariat. Puis je me suis ramassé après à peu près un an et demi, tout seul, le brasseur.
Okay.
Alors qu'on était 3.
Mais c'est qu'ils se faisaient renvoyer ou...
Non, pas du tout. Des gens qui ont juste changé des...
sont allés faire de la tournée.
Des gens qui ont été partir d'autres microbrasseries ailleurs, tout simplement.
Mais si tu veux comme... Là, c'est une question à part. Si tu veux comme la trahison, genre que tu t'en vas, tu sais...
Okay. Non, pas du tout. Puis dans le cas, qui nous concerne, nous autres, c'était quelqu'un qui retournait dans son patelin pour...
Ah, c'est cool!
C'était quelqu'un qui habitait dans Charlevoix puis qui venait travailler dans Limoilou à tous les jours, qui a décidé de s'ouvrir de quoi plus proche chez lui.
C'est correct, on pardonne.
Fait que c'est... Oui, voilà. Puis... Fait que l'équipe de brassage s'est ramassée de 3 brasseurs à 3-4 brasseurs à moi tout seul. Ouais. Là, ça a été un petit défi pendant un certain temps, mais quand les gars se sont rendus compte que j'étais capable un petit peu de mener la barque par moi-même, là, tout d'un coup, il y a eu une offre qui a été faite de mon côté, puis on m'a offert des parts dans l'entreprise.
Nice.
Fait que c'est de même que j'ai abouti sur... actionnaire avec eux autres. Puis depuis ce temps-là, ben, on ne regarde pas en arrière. Je suis brasseur en chef. Puis on a maintenant un assistant brasseur qui travaille avec moi. On l'appelle assistant brasseur, mais réalistiquement parlant, il brasse plus que moi. Donc, oui. Il est une chance, je l'ai, parce que si je ne l'avais pas, j'aurais de la broue dans le toupette un petit peu en ce moment. Donc, je salue Fred, si tu écoutes.
Puis l'équipe totale est à peu près de combien de personnes?
On est une très petite équipe.
Okay. Ah
oui? Ouais. On est 2 dans la production. Notre assistant brasseur et moi. On a Rémi, qui est notre directeur des ventes. On a Bertrand, qui est notre directeur général, qui, lui, je ne commencerai pas à vous faire la nomenclature de tout ce qu'il fait, parce que toute autre tâche connexe, c'est lui. Là.
Okay.
Comptabilité, contact avec les clients, création d'étiquettes, gestion des appareils électromécaniques. Il en fait, là, il emmène tellement large, là. C'est incroyable. Une chance qu'on l'a, Bertrand, c'est vraiment c'est le pilier à Brasseur sur demande, là, vraiment. C'est son projet, c'est lui qui était là à la base aussi avec ses autres actionnaires. Puis on a aussi un autre actionnaire qui fait partie du groupe des 4. Fait que voilà, c'est
Puis est-ce que tous les actionnaires sont impliqués au travail?
On est 3 sur place seulement. Okay. Le 4e est là plus... à titre fantôme, si on veut.
Okay. À titre fantôme.
Je vous dis ça dans le plus grand des respects, mais c'est un peu ça qui en est.
OK. Financièrement, il est là.
Oui, exactement.
Okay.
Je m'attendais à ce que vous soyez plus.
Non, pas dans l'équipe d'en production. On a une gérante qui s'occupe de notre salon de dégustation, Julie, qui fait un travail incroyable pour nous attirer à des gens qui ne viendraient pas au salon. J'appelle ça un salon. En réalité, c'est un peu notre pub. C'est juste que on vend pas de... On ne prépare pas de bouffe sur place, fait qu'on n'est pas on n'est pas un pub à proprement dit. On est pas un salon de dégustation.
Okay.
Mais si tu veux t'amener un lunch ou te commander une pizza sur place, il n'y a pas de problème.
C'est vrai?
Ben oui. On a une terrasse avec des tables à pique-nique.
C'est vraiment très beau. Ouais, très convivial l'été. Lily
Rose connaît bien l'endroit.
Oh oui. Finalement, tu as quand même eu un parcours assez atypique, un parcours que je pense que tu t'attendais pas à avoir, non?
Oui, puis non, parce que si tu fais un petit peu de recherche, tu vas te rendre compte qu'il y en a énormément des musiciens dans le monde de la microbrasserie.
Pour de vrai?
Bertrand est un chansonnier aussi, notre directeur général. C'est un gars qui a travaillé, qui a roulé sa bosse comme chansonnier, puis dans le monde de la musique quand même assez longtemps. Tu regardes d'autres microbrasseries comme le Fermentor, qui sont toutes, je pense, si je me trompe pas, 3 des 4 actionnaires font partie d'un band de heavy metal à Montréal qui roule depuis 10 ans. Alors, tu fais le tour, là, il y en a énormément des musiciens qui se sont recyclés dans cet univers.
Je vais trouver ma carrière.
Je pense que c'est ça que tu vas faire. Bleu flamand, c'est... ça prend le bord, là, c'est rendu genre bleu brasseur. Là.
Bleu brasseur, considérant que j'ai aucun talent en cuisine. Tu sais, mes grits cheese au micro-ondes, ça pourrait finir la première bière au micro-ondes.
Ouais,
mais ça se mange. Regarde, on est deux dans l'équipe du show des trois flots à manger nos grits cheese au micro-ondes.
Non, t'as dit bière au micro-ondes.
Ah oui!
C'est mon arc.
Ben, ça peut être bon, pareil. T'en penses quoi? Non.
J'aime mieux pas le prononcer.
Fait que tu sais, c'est pas atypique, mais quand même, c'est... Est-ce que tu regardes ça, là, tu regardes tout ce que t'as fait à date, là, est-ce que c'est quelque chose que tu dirais, je recommencerais à faire de la tournée ou tu regrettes rien, t'es content de ce qui s'est passé?
Je regrette rien, c'est sûr, mais je te cacherai pas, il y a des moments là, que je tombe sur des vieilles photos ou des vieux vidéos, puis je m'ennuie de la gang, je m'ennuie du show, je m'ennuie du thrill d'être sur scène, de découvrir une nouvelle ville, de voir le monde dans la foule triper. Parce qu'il n'y a rien de plus trippant que quand tu es sur scène et tu vois que la foule réagit à ce que tu fais. Il y a vraiment une espèce de sens de communion qui est très intense. Puis ça, même dans la bière, je ne retrouverai jamais quelque chose comme ça. Puis c'est correct, là, j'ai fait mon deuil. Puis même si je le voulais, ben je peux faire une parenthèse, je pourrais pas y retourner.
Hein?
J'ai eu un accident, ce qui est un peu innocent, là, quand tu y penses. Je me suis blessé aux cordes vocales.
Okay.
Comme à quelques années après avoir arrêté de chanter, j'ai eu des lésions aux cordes vocales qui sont dues à du surmenage dans mon environnement de travail. C'est très fort. Là. Dans une brasserie, des fois, il y a des équipements qui fonctionnent. Puis à force de parler fort par-dessus les équipements, je me suis blessé. On m'a diagnostiqué des lésions aux cordes vocales. J'ai fait un an d'orthophonie. Puis finalement, ils ont décidé qu'il fallait que je sois opéré parce que ça ne reviendrait pas. Puis même après l'opération, ma voix n'est jamais revenue ce qu'elle était avant, d'un point de vue chanté. Là. Même si je voudrais recommencer à chanter, je ne serais jamais capable de me remettre à un niveau vocal que j'étais avant d'arrêter.
Okay.
Donc, c'est un peu... Il y a eu un autre deuil à faire aussi à ce côté-là.
Pour y donner quand même beaucoup de crédit, pour l'avoir entendu chanter après l'accident, c'est quand même très, 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 très impressionnant. Là,
mais
savoir,
ça,
là,
j'ai l'impression.
Lily Rose est gentille, là, mais réalistiquement, je ne serais pas capable de revenir au niveau que j'étais. Puis, c'est correct. Tant aussi longtemps que je peux prendre ma guitare acoustique et chanter des chansons à mes enfants, là, je vais être en paix avec ça.
Mais ça, est-ce que tu aurais le temps, tu sais, si mettons avec ta guitare acoustique, là, du jour au lendemain, tu te dis, ah, ça me tente de recommencer à faire des spectacles, puis là, tu retournes, mettons, comme chansonnier. Est-ce que tu aurais le temps, tu sais, mettons, dans une journée, ça.
Non.
Non.
Non. j'aurais pas l'énergie non plus, là. Je suis papa d'une petite fille de 3 ans, puis il y en a un deuxième bébé qui s'en vient au mois de juin. Fait que je te dirais que ça occupe pas mal mon quotidien, là, avec l'actionnariat à Brasseur sur demande.
Oui.
Là. C'est plus de 40 heures par semaine sur place, puis c'est pas été quand il y a sur place quand il y a des problèmes. Parce que veux pas, il y a tout quand il y a quelque chose qui pète là, dans une brasserie. Là, t'as beau avoir de l'équipement de qualité. Là, n'importe qui a travaillé dans une brasserie, c'est quoi? Là, on passe notre temps à réparer des morceaux d'équipement qui brisent ou à régler des problèmes que tu n'avais pas prévus. Fait que avec la famille. Puis le travail en ce moment, me remettre sur le dos un show ou deux par semaine, ou peu importe, une fois de temps en temps, je vois pas comment je serais capable de mettre ça dans l'horaire. Peut-être quand les enfants seront plus grands, on verra. Mais pour l'instant, le focus est vraiment sur la famille puis la brasserie.
Puis mettons cette passion-là pour la musique, le côté artistique en toi, comment tu es capable de le faire habiter encore malgré qu'il ne soit plus une place autant présente dans ton quotidien?
Je pense que je comprends. Tu veux dire?
Ben, t'sais ce que, mettons, t'écoutes plus la musique, est-ce que tu vas jouer par toi-même des fois? C'est comment tu mets
Non, au contraire, il faut que je bloque ça parce que à chaque fois, j'en écoute plus vraiment de la musique à cause de ça parce qu'à chaque fois que je me laisse aller au jeu, justement, d'écouter un nouvel album ou de revisiter des trucs que j'aimais écouter autrefois, je me fais « Ah, maudit que j'aimerais ça en refaire. Okay. » Puis là, c'est là que je me mets dans un état d'esprit puis que négatif, puis là, je deviens un peu, pas dépressif, mais là, je deviens un peu mélancolique puis nostalgique de l'époque où est-ce que j'étais capable de le faire. Fait que, c'était pareil pour Rent. Là, je mentionne Rent, c'est une comédie musicale dans laquelle j'ai joué avec...
Savais-tu qu'elle a fait une comédie musicale à l'Impérial Bell?
Oui, elle me l'a dit tantôt.
Attends, est-ce qu'elle t'a montré la vidéo?
Ah non, ça, c'est pas nécessaire.
Ben, est-ce qu'elle t'a montré la vidéo de elle qui se fait frapper ses fesses pendant
non,
qu'elle...
Non, c'est ça, c'est pas nécessaire.
Oh oui, mais
ben ouais,
je lance ça comme ça dans l'univers.
Fallait y être.
Mais est-ce que ça va se refaire, ça?
Ben, c'est sûr que moi... Ben, en fait, c'est que Rent, c'était un projet qu'on a fait avec le Théâtre du Chat Noir, qui est une troupe de comédie musicale je dirais que semi-professionnel parce qu'il y a quand même des talents très, très bruts dans ce projet-là, entre autres comme Hugo. Mais c'est ça. Puis on a joué Rent, qui est une comédie musicale, qui est un pilier, en fait, du monde de la comédie musicale, à l'Impérial Belle. Puis, excuse-moi, ça laisse refaire. Oui, c'est ça la question. Là, en ce moment, il n'y a comme pas de projet qui est annoncé par le Théâtre du Chat Noir. C'est souvent soit des comédies musicales ou des revues musicales, comme Hugo a parlé, qui font environ 2 ans. Mais là, pour le moment, on est en attente, en suspens. Okay. Ça va être quoi le prochain projet. Mais c'est sûr que si j'ai l'opportunité de le refaire, moi, j'aimerais vraiment. Là, grand coup de cœur pour cette troupe-là. Là.
Ben là, on est mieux d'avoir le scoop en premier. Si Lily Rose et Hugo repartent en tournée, en tournant à l'Impérial et à la salle Albert Rousseau, quelque chose du genre. Moi, je veux venir voir ça. Et je veux venir entendre la voix brisée d'Hugo, que je suis sûr qu'il est...
La voix brisée. Ouais,
même à ça, et je suis sûr que c'est... Je suis comme toi, Lily Rose. Je l'ai pas entendu, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de voix que t'es comme... OK, mais c'est vraiment bon. Fait que c'était quoi le plein potentiel de tout ça? Si pour moi,
en plus, dans Rent, le rôle que Hugo jouait, il s'appelle Roger. Puis, pour vrai, moi, j'écoute la soundtrack de la vraie comédie musicale. Et des fois, je réécoute à toutes les semaines le show qu'on a fait. Puis, pour vrai,
c'est trop de temps libre,
Lily. Je sais!
T'as beaucoup trop de temps libre.
C'est ça, le bac en communication. Ça s'appelle le temps libre.
Et l'incompréhension totale. Oui, OK, continue.
Mais tout ça pour dire que j'écoute là, souvent les deux. Puis, pour vrai, là, c'est la même chose. Ils sont pareils, ils sont tellement remplis de talent. Moi, je suis une grande fan de Hugo pour son talent. Ça n'a aucun sens. Aucun sens.
Bon.
Les fleurs sont lancées.
Qu'est-ce que tu réponds à ça? Merci beaucoup. C'est gentil. C'est flatteur. Je suis un peu rouge. Hein?
Regarde, je te propose que tu reprennes tes émotions. Moi, j'irai en petite pause, finalement, après avoir entendu un peu le parcours que moi, je considère quand même impressionnant. Le bordel de gars de tournée à... devenir actionnaire d'une microbrasserie, finalement.
Absolument.
C'est quand même vraiment hâte à comprendre comment faire la bière. Bref, pour la Saint-Patrick, c'est génial. Comme invité, ça va-tu?
Non, c'est parce que, excuse-moi, j'étais sûre que t'allais nous annoncer genre qu'on allait mettre une toune irlandaise, puis là, j'étais comme pas prête à écouter ça dans mes oreilles.
Ah, ben, j'ai tout ça dans ma banque de chansons. Je pense pas que j'ai ça dans ma banque de chansons. Malheureusement, Lily, je sais à quel point t'aurais aimé ça.
Oui.
Mais on va passer à côté. Hey, et au retour, dans le fond, nous, on s'intéresse vraiment au côté bière.
Yep.
Vraiment, comment qu'on fait de la bière? Là, on a quand même un brasseur en chef avec nous, comprendre finalement et peut-être potentiellement ouvrir notre propre bricobrasserie à Lévis, la bière
la semaine prochaine.
La semaine prochaine. Ouais, on te l'a pas dit, mais on a la bâtisse, on a le marketing, on sait juste pas comment faire la Christie bière.
Le studio ici, ça sera plus un studio.
Fait qu'on va parler de tout de ça au retour. Vous écoutez le show des Trois Fleurs, on est avec Hugo Charland.
Vous écoutez le show des Trois Fleurs.
En micro.com.
Vous écoutez le show des Trois Fleurs.
Et 16h45, vous écoutez toujours le show des Trois Flots. Bien sûr, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h, sur les ondes de CGMD 96.9, la radio de Lévis. Ce soir, soir de Saint-Patrick. Soir de fête. Et quoi de mieux pour célébrer la Saint-Patrick qu'être en studio, en la radio, et fêter avec Hugo Charland,
okay,
de Brasseur sur demande. Ça va toujours bien, Hugo?
Oui, ça va, vous autres.
Oui. Là, on est rendu au bout. Le plus Saint-Patrick possible, OK? Nous, on a compris, là, finalement, on vient de parler de ton parcours. Là, t'es rendu un brasseur en chef. Donc, tu dois connaître le secret de la bière.
Le secret. Ça fait c'est gros, dis-moi.
Ça
même.
Fait gros, oui, c'est ça.
Non, les secrets ou le secret, je prétendrais pas être au courant, mais j'ai une petite idée de comment ça fonctionne.
Parce que c'est fou, tu sais, le nombre de microbrasseries qu'on voit émerger, justement. Là, ouais. Tu parlais en 2018, il y a eu le boom, mais de plus en plus, il me semble, j'ai vu un reportage à Radio-Canada, genre, qu'il parlait, tu sais, il montrait que. Là, qu'est-ce qui stand out des microbrasseries, finalement, c'est rendu du marketing, parce que là, c'est toutes les canettes, là, il y en a tellement, tu sais, tu t'en vas au monde des bières, ben là, je te pointe, mais t'habites pas à Saint-Nicolas, mais tu vas au monde des bières
au
de Saint-Nicolas.
Le Chaloux de Beauport.
Ben, quoi?
Le Chaloux.
Le Chaloux de Beauport. Shout out au Chaloux de Beauport. Ben, tu t'en vas au Chaloux de Beauport, il y en a tellement des variétés, et sincèrement, juste, je sais pas vous, mais moi, à mon âge, je sais faire une différence entre une blonde et une IPA, mais des différences entre les IPA... Je suis pas capable.
Ouais,
pas,
c'est rendu une espèce de comment je dirais ça? Un éventail de choix qui dans lequel on peut se perdre facilement. Là. Surtout dans les déclinaisons de la IPA, ça l'a explosé. On ne sait plus... On ne sait plus quel nom donner à notre bière pour espérer que pour espérer que le client comprenne qu'est-ce qu'on veut offrir comme produit puis l'accrocher aussi parce que tout le monde essaie de stand out par rapport aux compétiteurs puis d'une façon ou d'une autre. Tout le monde essaie d'arriver avec une nouvelle appellation à la mode. Il y a quelques années, c'était plus que tu avais de petites lettres là, qui voulaient dire... C'est un IPA double DDH, triple C, triple ça. Il fallait que tu sois brasseur pratiquement pour être capable de décoder qu'est-ce qu'il y avait sur une étiquette. Là. On est tombé dans une espèce de roue sans fin d'appellation différente pour finalement juste dire que la bière est houblonnée.
Oui, c'est
juste ça au final. Mais bref, je veux pas m'étendre là-dessus, là, mais oui, il y a moyen de se perdre pour quand un néophyte facilement.
Mais tu sais, comment tu penses, avant de rentrer justement, comment ça se fait de la bière et tout, comment tu penses que maintenant, avec ton avis, comment tu peux faire une bière qui peut stand out du marché? Est-ce que finalement, ça va être vraiment plus marketingement ou ça va être par le goût?
Ouais, tu touches aux deux solutions principales. C'est sûr que ton produit, à la base, il faut qu'il soit de qualité. Consommateur est de plus en plus avisé puis informé. Dans les dernières années, le consommateur achetait beaucoup la nouveauté. C'était un marché qui était beaucoup porté à ça. Fait que les brasseries, pratiquement tous les semaines, sortaient une nouvelle bière. Parce que c'était ça qui était en demande. C'était le consommateur voulait le nouveau kick, la nouvelle saveur du mois. Aujourd'hui, on n'est plus là. Aujourd'hui, on est rendu avec des consommateurs qui sont plus avisés puis qui décident d'investir leur argent, leur bière, dans des produits, à défaut d'un meilleur terme, des sure shots, des valeurs sûres pour eux autres. L'effet nouveauté s'est un petit peu estompé puis les brasseries focusent beaucoup sur leur produits vedettes, si on veut. Maintenant, pour répondre à ta question, à savoir comment tu fais pour en avoir une qui stand out par rapport aux compétiteurs, c'est sûr que le marketing, l'image est super importante. C'est sûr que la réputation de ta brasserie est bonne. Si dans le passé, tu t'es fait une mauvaise réputation parce que tu as sorti des produits qui étaient peut-être pas au niveau de qualité que le consommateur s'attendait ou que tu avais un produit qui était instable ou que tu as sorti quelque chose qui, pour raison X, Y, s'est fait une mauvaise réputation. Exemple, ta canette a explosé parce qu'il y a une refermentation non voulue dans la canette.
Okay.
C'est sûr que tu pars déjà avec une prise. Mm-hmm. Donc, un standard qualité, c'est important. C'est sûr d'avoir un produit avec une image de marque qui se démarque aussi, c'est important. La réputation de la brasserie. Puis aussi, ce qu'on se rend de plus en plus compte à Brasseurs sur demande, c'est que c'est d'arriver aussi avec des produits où est-ce qu'il n'y a pas de comparable sur le marché. Des produits que d'autres brasseries ne font pas. Des IPA, tout le monde en fait. Puis en 2024, tout le monde en fait de la bonne. On va se le dire. Il y a 5, 6, 7 ans, il y avait encore des brasseries qui se cherchaient un petit peu au niveau de l'identité de leur IPA. Aujourd'hui, en faire de la bonne, les secrets de Polichinelle d'autrefois sont connus de tous. Donc, sans dire qu'on fait tous la même bière, c'est parce que c'est pas le cas. Puis il y en a des brasseries qui font de la meilleure IPA que d'autres. Puis moi, j'aime croire qu'à Brasseurs sur demande, c'est une de nos forces, nos IPA. Mais il faut être capable aussi d'arriver sur le marché avec quelque chose que ton compétiteur offre pas. J'ai un bon exemple de ça. Nous autres, à Brasseurs sur demande, on a une bière qui nous identifie quand même bien. Là. Puis j'en ai un exemple.
Ah, c'est vous qui faites celle-là. Hey, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est que celle-là, rouge et bleu, moi, je suis un grand fan de celle-là.
La Nordique, ça, c'est notre IPA qui a fait notre renommée.
Tu vois comment je suis pas original comme gars. <C'est>... la Budweiser, celle qui a fait notre renommée. Oui, c'est celle que je bois.
Non, mais c'est la bière qu'on brasse depuis... c'est une bière qu'on fait depuis notre ouverture. Puis si je te dirais même que c'est la seule bière qu'on brasse encore qui date d'avant que j'arrive à Brasseur sur demande. Donc, à chaque fois que je la brasse, cette bière-là, pour moi, c'est un exercice de rendre hommage aux gens qui étaient là avant moi. J'essaie, tu sais, ce serait facile pour moi de regarder cette recette-là et de dire comment je pourrais l'améliorer et la rendre plus avec ma personnalité et ma signature. Mais par respect pour les gens qui étaient là et qui ont mis l'entreprise sur pied, moi, à chaque fois que je la fais, je me fais un devoir de regarder la recette originale et de m'assurer de la respecter le plus possible. Fait que oui, ça, c'est pour notre IPA, mais c'est pas cette bière-là dont je voulais te parler. Parce que tout le monde en fait un peu de l'IPA dans ce style-là, là. Même si la nôtre est très, très bonne. Là. Ce dont je voulais te parler, c'est la Perla. La Perla, c'est quoi? C'est une gauze mexicaine. Une gauze, qu'est-ce que c'est? C'est une bière sûre et saline à laquelle on ajoute du sel, tout simplement, qui a des aromates mexicains. On y ajoute du piment habanero, de la lime et de la coriandre aussi.
Okay, okay.
C'est quand même assez flyé comme produit. Puis il n'y a pas de comparable sur le marché. Il n'y a pas d'autres brasseries qui embrassent... qui brasse quelque chose qui peut s'apparenter à ça. De la gauze, tout le monde en fait, là, la bière sûre saline. Mais avec cette twist-là mexicaine... c'est quelque chose qui continue à faire parler de nous autres beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que justement, c'est pas quelque chose qui est répandu. Je vous en ai apporté, on en a quatre déclinaisons de cette bière-là. On a la version Classico, qui est la bière qu'on brasse depuis le début. La spéciale, qui est celle-là que j'ai avec moi, qui est une version un petit peu plus pimentée.
Oui.
La Caliente, qui est la version très piquante. Puis on a la Inferno, qui est une version qui est brassée avec du Ghost Pepper, du Carolina Reaper, qui est pour un public averti. Ça, je voulais pas amener parce que...
Un public averti.
On aurait peut-être fini le show en sueur. un petit peu de difficulté à parler, mais si vous voulez goûter, d'ailleurs, je peux ouvrir quelque chose. Tant qu'à être à la Saint-Patrick,
je
peux décapsuler un produit.
Ouais.
Oui. Ben,
Allons-y avec notre produit vedette, la Nordique, qui est comme... Notre IP qui a fait notre renommée, si on veut. Est-ce qu'on l'a pogné dans le micro?
Oui, on l'a pogné.
Super. Oui, on l'a pogné.
Je voulais être sûr. Tant qu'à être la Saint-Patrick, on va lever le coude un petit peu. Un petit peu, soyons responsables.
Je vais passer.
IP américaine de style New England. J'aime pas utiliser les déclinaisons de style quand je parle de l'IP, mais là, j'ai pas trop le choix. Vous voyez, son look est excessivement opaque. C'est une bière qui est très tropicale sur les agrumes. Pas très sucré, je dirais.
OK.
Elle a des petites saveurs de fruits à noyaux et de salade de fruits.
Et comment est-ce qu'il y a une bière? Là, tant qu'à faire, on va faire une rubrique. Là, je me sens comme à Casa, là. OK.
Yes.
Est-ce que c'est comme le vin? Y a-tu moyen de... Tu sais, là, tu dis toutes les caractéristiques, mais nous, il faut considérer, tiens, on est des jeunes, j'ai l'impression qu'on n'a pas le palais encore développé. En tout cas, je sais pas vous...
Moi, à ma connaissance, les jeunes, il faut la boire la plus vite possible.
C'est bon, mais moi, il n'y a pas de agrumes et tout, mais y a-tu moyen de, justement, être capable de détecter...
Prends-le. Oui. La première chose que je fais tout le temps, moi, quand je décris une bière, c'est que je le regarde. Oui. Visuellement, à l'heure de quoi? Là, c'est sûr que j'ai un verre qui me donne pas de chance. Pour ceux... Là, on fait de la radio pour que les gens comprennent pas, mais j'ai un verre qui est très, très opaque, donc je vois pas ma bière. Mais je sais de quoi elle a de l'air. C'est une bière qui a une apparence un peu d'un jus d'orange qui est très trouble et dense visuellement. Elle a une mousse qui n'est pas très tenace, mais quand même assez. Au nez, quand je la sens, moi, je pogne des gros agrumes, des fruits tropicaux. Cool. Ça me rappelle aussi un peu la salade de fruits d'Oyle.
Oui.
Ouais.
Fait que, avec les petites cerises rouges dedans.
Exactement. Fait que, après ça, la deuxième chose que je fais, j'y goûte après l'avoir regardé puis l'avoir senti.
Ne savez pas compris, on l'a tout goûté.
Ouais,
cheers tout le monde.
Ouais,
pas très amer. Les New England IP ont ce côté-là où est-ce que de la façon qu'on travaille le houblon, on essaie d'extraire un minimum d'amertume et un maximum d'arômes de fruits et du houblon, bref. Fait que voilà, puis quand j'en parle, puis que je fais une description de la bière, qu'est-ce que je pogne comme saveur? La grosse salade de fruits encore, comme je vous parlais tantôt, un petit peu sucré. J'ai une belle rondeur en bouche, c'est pas mince, sans être amer, puis finalement, je finis. C'est quoi la sensation que ça me laisse en bouche, la finale? C'est pas sec, c'est pas amer, donc on a une finale qui est ronde, sucrée, puis assez tropicale, je dirais. Fait que c'est, grosso modo, c'est le même que je m'y prends, en quatre étapes pour décrire une bière.
Ah, oh, mais ça, c'est génial. J'adore. Est-ce que tout ça, t'as appris ça dans... Comment on apprend ça? En goûtant beaucoup?
En regardant énormément de dégustations, de voir comment les gens s'y prennent. Ah. On a des fiches aussi en brasserie que ça fait... Je n'entrerai pas dans les termes trop techniques, là, mais des fiches organoleptiques qui sont tout simplement des évaluations sur le côté sensoriel des bières. Puis c'est exactement ça qu'on en regarde. Okay. Le visuel, l'odeur, en bouche, qu'est-ce que ça goûte, puis la finale. Fait que donc, c'est pas mal en me basant sur ce type de critères-là que je me base pour faire une description de bière.
Parce que là, rendu là, ça, c'est une question que je trouve importante. Là. Mm-hmm. puisque justement, le public, quand vous êtes dans les microbrasseries, là, vous êtes avisé, vous savez un peu comment analyser. Mais est-ce que pour le public, quand il y a plusieurs, là, tu disais, ils sortaient chaque semaine des nouvelles bières, moi, je vois ça comme un peu des chansons de nos jours, qu'il y en a tellement eu qu'il y a des chansons qui se ressemblent beaucoup, tu sais, c'est les mêmes accords, c'est les mêmes mélodies, mais finalement, tu sais, est-ce que toi, t'es capable de savoir qu'est-ce qui différencie? Tu sais, on donnerait plein de bières qui se ressemblent, tu serais capable d'y trouver, mais pas nous nécessairement.
Je serais pas capable de nécessairement te dire. Tu me mets 20 bières de microbrasserie différentes devant moi, je serais pas capable de dire laquelle est laquelle de quelle microbrasserie. Ouais. Mm-hmm. Je serais capable de dire laquelle est la mienne. Je serais capable de reconnaître, ben, quand je dis la mienne, je parle de la nôtre de brasseur.
Oui, oui.
Dépendamment des bières qui sont brassées chez nous, on a certaines signatures qui sont très faciles à reconnaître. Entre autres, je parlais de salade de fruits là, dans cette bière-là. Ben, ça, c'est la levure qui amène ce côté-là. C'est pas le houblon.
Okay.
Puis la levure qu'on utilise, on l'utilise beaucoup, cette levure-là, chez nous. C'est sûr qu'une autre brasserie qui utiliserait la même souche, peut-être je reconnaîtrais un peu, mais il y a d'autres aspects à notre bière qui font en sorte que je suis capable de facilement l'identifier.
Ouais.
Il y a des brasseries aussi qui ont des signatures très faciles à reconnaître. Là. Unibrew, qui est une brasserie qui ne fait que pratiquement de la bière à signature belge, ben, leur levure, à eux autres, est facilement identifiable. Tu mets une bière d'Unibrew devant moi, sans savoir c'est laquelle exactement la bière, je sais exactement que ça vient, d'où est-ce que ça vient, qui est-ce qui l'a brassée.
Puis c'est quoi qui fait cette différence-là, mettons?
Leur levure maison. Eux autres, ils ont une souche de levure pour pratiquement toute leur bière. Puis c'est très caractéristique. Là. C'est immanquable pour quelqu'un qui est avisé et qui a de l'habitude d'en boire. Puis c'est comme quand tu écoutes Marie-Chantal Toupin chanter de la musique, tu entends qu'elle roule ses airs. Tu entends juste ça.
Ouais.
Fait que quelqu'un qui reconnaît la signature de la levure de Unibrew va être capable de reconnaître que c'est une bière de Unibrew.
Okay. Ça, finalement, quand tu startes ta microbrasserie, autant comme dans la musique, finalement, faut que tu essaies de trouver ta
twist.
Tu sais, justement, tu nous mets une chanson, je sais pas, des CDC, tu sais, ils ont leur propre.
Tu reconnais. C'est sûr que dans la bière, tu veux pas nécessairement que toutes tes bières sonnent pareilles comme toutes les tunes des CDC sonnent pareilles. On s'entend-tu?
Je vais pas me prononcer. Je suis quand même un fan, mais je suis d'accord un peu.
Je suis un très grand fan des CDC.
C'est juste que quand t'apprends à jouer de la guitare, t'apprends rapidement qu'ils utilisent les mêmes quatre accords souvent. Hein?
Ouais, c'est ça. Nous autres, on essaie d'éviter que toutes nos bières se ressemblent. Donc c'est pour ça aussi, on parlait d'IPA et de déclinaison. Moi, chaque fois qu'on me demande de brasser une nouvelle IPA, je m'en vais toujours à la table à dessin. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore qu'on pourrait faire pour la différencier celle-là du reste du lot? Puis on essaie de ne pas faire juste des IPA. On a des bières sûres. On a commencé un programme de vieillissement en barrique, de bières barriquées chez nous. On a énormément de demandes pour de la bière de soif. On a un retour aux bières plus simples depuis quelques années. Là. Le consommateur aime, surtout au salon de dégustation, on se rend compte que on ne voulait pas être une brasserie qui offrait une blanche, une rousse, une blonde, puis une stout ou une IPA.
Comme un festival, un peu.
Je veux pas nommer de nom. J'ai énormément de respect pour une brasserie comme Archibald.
J'adore leur bière. Là.
Contrôle qualité incroyable. Je veux pas nommer de nom, mais nous autres, on voulait pas faire ça à la base. Okay. Sauf qu'on s'est rendu compte après une couple d'années que Christy, quand j'en ai une blonde de soif qui est branchée au bar, c'est la bière qui se vend le plus le soir, soir qu'elle est là. Fait qu'on n'est pas plus con qu'un autre. Fait qu'on va en faire, on va en faire. On va lui donner une twist microbrasserie, puis on va lui donner un peu notre signature. On va s'arranger pour qu'elle soit bien faite et intéressante. Mais c'est sûr que c'est un marché qui est en train de reprendre un petit peu du poids de la bête, si on veut. Alors qu'à une époque, tu bois de la Budweiser!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ouais, mais Budweiser, il est disponible partout sur la planète, puis peu importe où c'est que t'es sur la planète, elle goûte la même affaire, la Budweiser. Fait que c'est un exploit brassicole en soi, ça. Fait qu'il faut avoir un respect pour ça. Moi, j'ai beaucoup de mes proches qui lèvent le nez sur les bières de macro-brasserie, puis que moi, je bois juste de la bière de micro-brasserie, il y a juste ça de bon. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux me dire. Puis j'apprécie le fait que t'encourages mon industrie, mais faut aussi reconnaître qu'il y a des, il y a un savoir-faire pour dans ces, dans les grands de ce monde. Puis même que si t'aimes pas ça, puis t'aimes mieux le côté artistique d'une bière artisanale, fair enough, je respecte ça. Mais faut savoir donner à César ce qui appartient à César aussi. Les macro-brasseries sont là pour rester, n'en déplaise aux puristes de la microbrasserie, puis ceux qui ont peur des microbrasseries, qui espèrent qu'un jour qu'on prenne le contrôle du monde. Là.
Ouais.
Moi, je suis un réaliste, puis je me dis que je serai peut-être plus là le jour que ça va arriver, puis tant mieux si ça arrive, mais en ce moment, je pense pas qu'on est là. Fait que, voilà.
Mais là, faut entrer dans le vif du sujet. Là.
Vas-y, shoot.
Comment qu'on fait de la bière? Oui. Est-ce que toutes vos bières, vous startez par la même base, puis là, à un moment donné, t'es comme, OK, ben là, je rajoute des framboises. Ou
pis, je rajoute de la salade de fruits.
Ouais. Si je peux ajouter,
au Costco.
Il n'y a pas, de salade de fruits dans la bière. Je veux juste être clair, je n'ai parlé beaucoup. Mais
j'ai vu un petit côté de cerise rouge dedans. Dans
il y en a pas.
Vous l'avez mal pensé.
Juste être clair là-dessus.
Si c'est possible de vraiment expliquer là, pour quelqu'un qui ne se connaît vraiment pas comme moi, partir de la base, vraiment faire de la bière pour les nuls, ça ressemble à quoi?
On va essayer de vulgariser ça le plus simple possible. Il y a un petit peu de chimie d'impliquer, fait que tout ce qui est...
On est en communication.
Ouais.
J'ai fait ma chimie.
T'as fait chimie secondaire 5, ça compte pas.
Non, j'ai fait cégep.
Oh,
moi, secondaire 5.
Non, mais je vais laisser, je vais le vulgariser le mieux possible. Tout part de la céréale.
Oui.
On travaille avec des maltes, de la céréale qui est maltée.
Mais c'est ça, pas des Frosted Flakes.
Non, je pourrais, ceci étant dit.
Pour de vrai?
Ah, ouais.
Ben oui, c'est sucré. Puis le but de travailler une céréale, c'est d'en extraire des sucres.
OK.
Là, ce qu'on va faire, la céréale, on va la concasser. On peut choisir, dépendamment de la recette qu'on brasse, on peut faire un amalgame de plein de céréales différentes. On peut y aller juste avec de l'orge ou peu importe. Bref, ça c'est un autre sujet pour un autre temps. On part de la céréale, on la concasse, puis on la trempe dans de l'eau chaude. Ça s'appelle l'empâtage. Durant l'empâtage, ce qui va se créer, c'est ce qu'on appelle une réaction enzymatique. Où est-ce qu'on va aller extraire les sucres de la céréale pour ensuite l'envoyer dans une bouilleuse, sous forme liquide. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va soutirer tout ce jus-là, ce jus sucré qu'on va avoir fait durant l'empâtage. On va le séparer de la céréale. On va garder juste le liquide. La céréale, elle va se ramasser... à la poubelle, ou idéalement, nous, on la donne à un éleveur en Beauce qui s'en sert pour nourriture pour ses bêtes.
Ah. Okay.
Fait qu'on recycle la céréale de cette façon-là. Une fois que le jus sucré, qu'on appelle du mou, M-O-U-T, est séparé de la céréale, il est dans la bouilleuse. Là, c'est là que... d'une certaine façon, de party point, puis tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Durant l'ébullition, tu peux ajouter du houblon, tu peux ajouter des épices, tu peux ajouter toutes sortes d'aromates pour aromatiser ta bière. Une fois que la bière est bouillie, puis qu'elle est bien stérile, puis que tu as condensé tes sucres, on va la passer dans un échangeur. L'échangeur, lui, ce qu'il va nous permettre de faire, c'est de passer d'une bière d'un liquide bouillant à un liquide froid, rapidement.
Okay.
Parce que ce qu'on veut faire, c'est sortir la bière de la bouilleuse puis l'envoyer directement dans un fermenteur le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait des contaminants qui s'introduisent dans la bière. Parce qu'une fois qu'elle est plus chaude, qu'elle est plus bouillante, la bière, le mou, en fait, il est propice à toutes sortes de contaminations. Puis c'est là que c'est dangereux d'abîmer son produit.
Mm-hmm.
Donc, une fois qu'elle est refroidie puis qu'elle est dans le fermenteur, on est rendu à l'inoculer avec une levure. Puis là, à partir de ce moment-là, ce que j'aime dire, puis ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que mon travail est fait. Parce que la levure va faire le reste du travail. Elle va fermenter les sucres qu'on a extraits de nos céréales. Puis elle va fermenter mon mou. Donc là, ça, c'est un processus qui peut prendre quelques semaines. À partir de ce moment-là, moi, ce qui me reste à faire, c'est de monitorer ma fermentation. M'assurer que ça se passe bien, que ma levure ait du fun, puis que ça elle fermente bien.
Fait que la saveur qu'on voulait ajouter est déjà présente.
Là, c'est. Là, à partir de là, il peut se passer plein de choses.
OK.
On peut laisser la levure faire ce qu'elle a à faire, fermenter la bière jusqu'à ce qu'elle soit finie, puis prête à être gazée et mise en canette. Ou on peut y ajouter encore d'autres choses. Souvent, quand on fait des bières aux fruits, c'est là qu'on va aller ajouter nos purées de fruits ou nos fruits entiers, à même le fermenteur. Pourquoi je ne l'ajoute pas dans l'ébullition, c'est que le fruit va cuire, le fruit va bouillir, puis durant la fermentation, on va perdre énormément de composants aromatiques qu'on veut conserver dans la bière. Donc, pour ce qui est tout ce qui est fruits, souvent, ça se passe sur ce qu'on appelle le cold side. Mm-hmm. Donc, une fois que la bière est en fermentation, versus le hot side, qui est le hot side, c'est le quand elle est en train de bouillir. On peut aussi rajouter du houblon durant la fermentation. Toutes nos IPA sont houblonnées à froid. Houblonnage à froid, c'est en anglais, on appelle ça un dry hop. C'est un houblonnage qui est ajouté soit durant la fermentation ou après la fermentation. Okay. Dépendamment du type d'IP et comment tu veux travailler ton houblon. Fait que toutes sortes de choses est possible aussi durant la fermentation. Une fois que la fermentation est finie, puis que la levure a fini de manger tous les sucres, à convertir tous les sucres en alcool, parce que c'est ça qui se passe là, en réalité. La fermentation, c'est la levure convertit le sucre en alcool, elle fermente. Puis quand c'est stable, puis que ça finit de fermenter, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on gèle la bière. Ben, pas réellement. On met la bière à très basse température pour séparer les matières organiques qui sont solides dans la bière, comme les dépôts de protéines, les houblons, pour que tout ça sédimente dans le fond de la cuve, pour qu'on puisse séparer la levure de la bière, toutes les matières organiques solides de la bière liquide. Donc là, on sort la bière de la cuve, on la filtre, on l'envoie dans une cuve de conditionnement, et c'est là qu'on va, dans cette cuve-là, qu'on va gazer la bière. Il faut que la bière est gazée et prête à être soit enfûtée ou mise en canette.
Puis, est-ce que c'est comme, mettons, du vin ou, mettons, du whisky, là, c'est les deux affaires qui me viennent en tête, là. Plus il est longtemps emboîté ou mis dans un tonneau, plus il va être bon?
Non, absolument pas.
Non?
C'est, la bière, c'est une bête qui est complètement différente du whisky. Le whisky, lui, ce qu'il va faire durant son vieillissement en tonneau, il va se conditionner, oui, mais il va aussi oxyder, puis il va prendre les saveurs du bois.
OK.
Alors qu'une bière, là, moi j'en ai une bière ici qui est barriquée, qui a vieilli en tonneau. Mm-hmm. Mais c'est une petite partie de notre production, c'est pas ça qu'on fait au quotidien.
Okay.
Une bière, généralement, comme une IPA, tu veux que ce soit dans les mains du consommateur le plus rapidement possible.
Okay.
Dès que la fermentation est finie puis que ton produit est stable, tu filtres, tu gazes, tu mets ça en canette puis tu t'arranges pour que ce soit bu le plus frais possible. Parce que ça, ce type de bière-là n'a pas un profil de vieillissement très intéressant. Au contraire, ça a une durée de vie qui est un petit peu plus limitée que, mettons, une lagueur blonde de soif.
OK.
Donc, non, c'est pas vrai qu'une bière, plus qu'elle fermente longtemps ou plus qu'elle est conditionnée longtemps, elle se bonifie pas nécessairement. C'est sûr que la levure va amener ce qu'on appelle des off-flavors, des goûts sous-jacents de fermentation, des fois qui sont pas intéressants, puis que le conditionnement en cuve à froid va éliminer. Ça, moi, je suis formé pour détecter ces goûts-là puis décider. Puis adresser quand ces saveurs-là ont disparu. Mais je te dirais que non, il n'y a pas de plus-value de garder sa bière plus longtemps en fermenteur que c'est nécessaire.
Okay.
Surtout qu'il y a une réalité aussi que moi, quand ma bière est dans une cuve, ben cette cuve-là, je ne peux pas m'en servir pour faire d'autres choses. Fait qu'il n'y a pas de roulement. Sans dire que je rush ma bière à sortir avant qu'elle soit prête, il y a quand même, tu sais, quand la bière est prête, on la laisse pas dormir inutilement. On la sort, puis on en rebasse une nouvelle batch dès que c'est possible.
OK. C'est tellement plus compliqué que je pensais.
Ben, c'est drôle que tu me dises ça, parce que il y a quelqu'un chez nous, à Brasseur sur demande, quand j'ai été engagé, qui me dit... lui, c'est un brasseur maison, à la base. Puis il travaillait pas dans le côté de la production. Fait qu'il savait un petit peu comment ça se faisait. Puis il me dit, Hugo, ton métier, là... On va se le dire, c'est facile de faire de la bière. Hein? Là, je regardais, attends, c'était mon nouveau patron à l'époque. Fait que j'avais pas envie de le challenger de suite. Je t'ai dit, ouais, ce que tu dis, c'est un peu de la marde. Là. Je te dirais, viens voir. J'ai pas osé dire ça, mais réalistiquement, je dis, viens passer une semaine dans mes bottes de Robert, voir tous les paramètres que j'ai à contrôler pour m'assurer que la bière soit bonne. Puis elle me dit après ça que c'est simple. Tu sais, moi, aujourd'hui, ça va faire quasiment 8-9 ans que j'ai commencé à faire de la bière.
Ouais.
Puis, j'en apprends encore à tous les jours.
Ah, c'est clair.
Puis, je dis tout le temps à tout le monde qui veut l'entendre que je connais pas tout, mais je veux tout apprendre.
Ouais.
Puis, encore aujourd'hui, je trouve pas ça simple, faire de la bière. Je trouve que ça... Oui, c'est plus naturel que ça l'a déjà été, mais... Je suis pas d'accord avec quelqu'un qui me dit que c'est facile. Tu fais juste tremper ta céréale, puis tu as fait bouillir, tu as fait fermenter. Oui, ça va te donner une bière, mais à quel point tu as contrôlé un maximum de paramètres pour te donner exactement le produit que tu voulais avoir à la base? Mm-hmm. Là, tu embarques dans un autre game. Puis là, après ça, c'est une chose de le faire chez vous, mais tu arrives dans une échelle commerciale. Tu travailles des équipements qui réagissent pas comme tes équipements maison. Tu travailles comme avec plein d'autres variables. Faut que tu t'assures aussi que ta bière, elle soit stable sur le marché. Faut pas que tu aies une canette qui explose dans les mains du client. Parce que tu as fait quoi qu'il fallait pas. Tu avais un fermenteur avec une infection qui a fait en sorte que ta bière a redécollé dans la fermentation a redécollé dans la canette puis que la bière est surgazée. Il y a tellement de choses à checker. C'est sûr que c'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, oui. Puis, moi, me faire dire que c'est facile. À l'époque, j'avais trouvé ça un petit peu un petit peu audacieux comme commentaire. Aujourd'hui, je pense que cette personne-là, avec du recul, oserait pas me dire la même chose. Avoir tous les défis qu'on a eu à surmonter à Brassard sur demande ensemble, là, c'est pas aussi facile que ça peut en avoir de l'air. C'est le fun, par contre. C'est très le fun. Ouais. Il n'y a rien de plus gratifiant là, que mettre du temps à designer un produit. L'imaginer dans ta tête comment il va sortir, designer la recette, le brasser, le regarder fermenter, attendre, y goûter un petit peu une fois de temps en temps. Oups, il me semble que il y a tel off-flavor que j'aime pas trop. Attendons voir si la levure va éliminer ça par elle-même. Puis finalement, tu arrives avec ton produit fini, tu es assis chez vous avec ta pinte de bière que tu as faite maison ou ta pinte de bière que tu as faite à la brasserie commerciale, puis tu dis, hey, c'est nous autres qui avons fait ça. Puis ouais. C'est vraiment ce que j'avais en tête. C'est vraiment trippant. C'est un peu comme pondre une chanson, aller en studio, l'enregistrer, puis tu te rends compte qu'elle est vraiment 100 fois meilleure parce qu'il y a plein de monde qui a mis du sien, un producteur, des musiciens invités. C'est un peu ça aussi. C'est le même feeling que pondre une chanson, tout simplement.
Mais ça que tu dis, là, tu dis, c'est comme je l'avais imaginé. Mais moi, la seule chose que je catche pas, c'est que. Comment tu décides comment qu'elle goûte? Là? Parce que tu dis, c'est là que je décide comment qu'elle va goûter. Ouais. Et c'est là que tu mets tous tes petits points de elle va goûter ça, elle va goûter ça. Mais au fin de compte, peux-tu goûter? T'sais, t'as-tu une grosse loupe que tu mets, tu goûtes
pendant?
Une grosse louche que tu goûtes. Comment ça me sort de la tête? Comment tu fais pour juste, je vais mettre un peu de coriandre, puis je sais exactement que ça va sortir comme une sûre.
Ben, je te mentirais pas, la première bière que j'ai brassée, j'avais aucune idée de ce que ça donnerait. Là.
Puis ça a goûté quand même bon.
C'était bon, mais j'avais aucune idée comment ça sortirait. Okay. Là. je vais être honnête. Avec le temps, tu développes des réflexes, puis tu développes des connaissances. Tu sais que tel ingrédient va amener telle caractéristique à ta bière, telle levure, telle eau avec tel sel, tel minéraux, tel houblon amène telle saveur. Fait que tu développes comme un espèce de langage, un champ lexical que tu peux construire. Tu peux construire un peu le texte d'une chanson de la même façon. Parce que tu as différents outils que tu sais comment ils fonctionnent. Tu assembles ça ensemble, puis tu as une idée du produit que ça va donner. Mais comment j'en viens à designer une recette, là, ça, c'est une autre affaire.
Puis le développement de produits, est-ce que c'est toi qui s'en occupe en tant que brasseur, en chef?
Non, on est une équipe, puis ça se fait vraiment de façon très organique. On est les trois actionnaires qui, quand c'est le temps de développer un nouveau produit, on s'assoit ensemble et on discute de ce qu'on a envie de faire. Puis c'est jamais vraiment moi, Hugo, fais ce que tu veux. Puis c'est correct, parce que c'est pas Hugo sur demande, le nom de la brasserie, c'est brasseur sur demande. Je suis très conscient que je suis le brasseur puis que je mets mes talents au profit de l'équipe. Mm-hmm. Ça fait que ça, c'est bien parfait. Parce que moi, je ne ferai pas le travail, mettons, que Bertrand a fait. J'ai pas ses compétences à lui. Je ne ferai pas le travail que Rémi fait en vente. J'ai pas ses compétences à lui. Ça fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Mais vraiment, Bertrand et Rémi, c'est quand même deux amateurs de bière à la base aussi. Ça fait qu'ils ont des idées puis ils ont des goûts personnels qu'ils veulent amener aussi. Puis quand on design un produit, on fait pas juste faire ce qu'on a envie de faire. Je sais pas si... Restez avec moi, je vous explique pourquoi. Là. On fait aussi qu'on pense que le public a envie d'avoir. Mmh. Parce que moi, faire une bière que je vais être tout seul chez nous à triper dessus, ça ne m'amène pas à grand-chose si je ne suis pas capable de la vendre et qu'il n'y a pas un public pour l'acheter. Moi, j'ai une grande passion pour les bières historiques anglaises. J'ai un gros tripeux de l'histoire. J'ai un manuel avec 400 recettes antiques qui datent d'il y a 200 ans et plus, qui étaient brassées autrefois. Puis moi, mon trip chez nous, c'est de l'essayer, ces petites recettes-là, voir qu'est-ce que ça goûtait autrefois à la bière. Puis je sais que c'est pas pareil, mais ça, c'est un gros trip. Mais en même temps, je sais que si je faisais ça à Brasseur sur demande, je serais probablement pogné avec ma batch à triper tout seul. Fait que quand on fait une recette, il y a tout ça à prendre en considération. Est-ce qu'on va la vendre? Parce que, tu sais, on ne veut pas être une business aussi. On n'est pas juste... c'est beau, la mentalité artistique puis tout ça, mais il y a un côté mercantile à tout ça aussi qu'il faut jamais perdre de vue aussi. Là. Fait que voilà. Fait qu'on design la recette, c'est ça. Tout le monde pitch-in un petit peu avec ses idées, ce qu'il aimerait avoir, puis qu'est-ce qu'il pense qui serait un bon produit à offrir en complément à notre ligne qu'on a déjà. Là. D'ailleurs, y en a-tu qui ont soif?
Oui, moi, je peux prendre un refresh. Je vais pas te mentir, là. D'habitude, la IPA, je ne suis pas capable.
Ouais, c'est pas pour tout le monde.
Mais celle-là, elle a un petit quelque chose qui fait en sorte que je l'aime.
Crème.
J'aurais jamais pensé dire Antoine! Ça. Ouais, tu sais pas, d'habitude, ça goûte trop... tu sais, moi, j'aime ça dire ça. Une IPA, ça goûte l'agriculture, là.
Ouais, je comprends.
mais celle-là, elle, Elle est vraiment bonne.
C'était le jus de fruits un peu plus.
Ouais, elle était, elle goûtait vraiment.
Moi, je suis une grande fan de IPA, puis elle m'a servi. Je l'ai adoré.
Yes, cool.
Et moi, j'étais déjà un fan. Ah,
j'en ai plus d'IPA. On va essayer d'autre chose. On va rester dans le fruité un peu.
Allons-y.
J'ai une bière sûre à l'ananas. Une Berliner Weiss à l'ananas.
Très
d'or. Puis ça, c'est drôle que Lily Rose soit là parce que.
Elle était faite pour toi.
Non, elle n'a pas été faite pour toi. Désolé, je voulais pas péter
à
l'air.
Rose à la
non, mais le brassin qui a inspiré cette bière-là, c'est un brassin. C'est une bière que j'avais brassée pour le party anniversaire, pour le party de visionnement de Rent. Fait que la première version de ce bière-là avait été faite pour notre gang dans les comédies musicales.
Je suis pas mal sûr, je l'ai pris en plus.
Ouais, fait que c'est inspiré de c'est inspiré de cette soirée-là.
Oh, crime. Je vais me mettre à pleurer. Okay,
Ben non, arrête. Arrête, je peux pas croire.
Faut pas trop me parler de Rent. Moi, je vous jure, je deviens le
émotif. Mais je trouve ça sincèrement impressionnant comment ça marche. Tout ça. Sérieusement. Merci. Mais je trouve ça sincèrement impressionnant de comment on fait la bière, comment tout marche.
Est-ce qu'on fait-tu le descriptif encore une fois?
Oh!
Oh,
on peut!
Regarder.
Mais est-ce qu'on laisse quelqu'un d'autre le faire?
Samuel? Que moi?
Autre quelqu'un d'autre?
Je peux essayer.
Oui, oui, vas-y, mon ami.
Bon, moi, je regarde ça. C'est une bière qui est un petit peu plus pâle que l'autre qu'on avait avant.
Bonne
encore un petit peu opaque. La mousse, comment qu'on dit ça? Moins dense?
Ouais, moins dense.
Moins dense que l'autre. Donc là, on regarde, on va sentir.
L'ananas.
Ouais, ça sent un petit peu, on sent un petit peu le fond d'ananas qu'il peut y avoir dedans.
Ce type de bière-là est conçu vraiment pour les gens qui aiment mettre, à la base, peut-être moins les bières, plus les cocktails, les prêts à boire.
Okay.
C'est une bière de blé sûr, fait que oui, vous allez avoir...
C'est ça que j'allais dire après.
Vous allez avoir une acidité assez marquée au nez, là. Quelque chose de lactique, un peu. Là.
Tu l'as de goûter, Antoine?
Oui. Ah oui, on goûte un peu le surette.
Ouais.
Oh oui, ça fait derrière deux
jours. Wow. Un petit peu, c'est très discret. C'est on n'est pas trop...
On n'aime pas beaucoup nos bières sûres à faire fondre les gencives, à brasser sur la
demande. Ça vient pas m'assommer.
Attention, là. Attention sur le niveau d'acidité.
On dirait que le petit goût de la fin, moi, je le sens. Le blé, tu as mentionné.
Oui.
Je le sens.
Ouais, puis le goût qu'il laisse en fin, c'est pas sec. C'est quoi les autres critères?
Rond, sec, sucré. Utilise ce qui te vient en tête. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse.
Je sais pas c'est quoi que tous les termes veulent dire, mais bref, je recommande. C'est vraiment bon.
Elle est vraiment bonne.
Ça s'appelle la Fosse Verte. Disponible un peu partout, d'ailleurs. C'est pour me plugger.
Puis, la diversité de produits qui sort, c'est au combien de temps environ?
C'est vraiment en fonction de la demande du marché, je te dirais, là, en ce moment. Là. On est... moi, je regarde toujours un peu mes inventaires en temps réel. Là. Qu'est-ce que mon distributeur a en stock? Puis c'est pas mal ça qui va dicter ce que je vais brasser. Aussi, c'est saisonnier. Comme tu vois, cet hiver, on a sorti un Stout Impérial Barriqué en tonneau de Bourbon.
Mon Dieu, le descriptif était tellement. C'était tellement micro-brasserie. Ouais. J'adorais ça.
Ça, j'aurais pas sorti ça au mois de juillet. Okay. On l'a sorti plus janvier, février, durant la saison froide. Okay. C'est quelque chose de je veux pas dire lourd, mais de plus costaud puis de réconfortant. Fait que c'était pas une bière d'été.
J'imagine que c'est plus les fruits l'été, plus fruité, plus léger.
Ouais. Les petites bières blondes, les bières de soif, les bières aux fruits, les bières sûres, les bières session aussi. Là, on a commencé à travailler sur un programme de bières à plus faible pourcentage d'alcool puis bas en calories aussi.
Okay.
Pour les gens, il y a beaucoup de gens qui font du sport, qui viennent boire de la bière chez nous une fois de temps en temps, puis qui demandent, en faites-vous de la bière à faible quantité de calories? Faites non, mais j'ai commencé à investiguer là-dessus. J'ai plusieurs brassins tests de fait. Puis là, je peux le dire en ce moment, notre première batch qui est en fermentation, qui devrait être prête d'ici peu. On n'a pas de nom encore, fait que je veux pas faire de grands dévoilements, mais ça s'en vient.
Ah, c'est
ça s'en vient.
Et ça serait quoi finalement? T'avais-tu une question sur toi? Vas-y, moi, c'est une question finale.
Moi, c'est. Tu sais, il y a une grosse vague des personnes qui s'en vont plus vers les seltzers.
Ouais.
Ça, comment ça vous a affecté du côté microbrasserie puis côté bière?
Je suis pas dans le secret des dieux. Je vois pas les chiffres de vente des seltzers. Je peux te dire que quand c'est arrivé sur le marché, on a vu une mouvance, effectivement, vers ce type de produit-là. Le sans-alcool aussi est en train de prendre une grosse part du marché. Puis là, sans compter de secret de polychinelle, là, n'importe qui s'intéresse un petit peu au milieu de la microbrasserie puis qui regarde les reportages qui sortent dans les dernières semaines, les derniers mois, même la dernière année, je dévoie pas le secret, là, mais notre industrie est un petit peu en crise en ce moment.
Okay.
Y a énormément de gens, de collègues qui ont mis la clé dans la porte, des gens qui sont en difficulté financière. Puis ça, c'est dû en partie, entre autres, au changement des habitudes de consommation des clients. Mm-hmm. Il y a eu une petite mouvance, effectivement, des gens qui ont laissé un peu la bière des microbrasseries pour aller vers d'autres choses, ou des gens dont les habitudes de consommation d'alcool ont tout simplement changé.
Changé.
Ouais. Fait que, ça, c'est une des raisons pour laquelle le marché, en ce moment, est en... J'aime pas utiliser le mot crise, mais disons en restructuration.
OK.
Ouais.
Est-ce que tu considérais que les bières que tu es en train de nous présenter aujourd'hui, si on avait les outils, les connaissances pour et on avait votre recette à la clé, genre sur Ricardo, on serait capable de faire ça chez nous?
Absolument pas.
OK, c'est bon.
Absolument pas. Puis ma réponse est tranchée au couteau comme ça. Pourquoi? Parce que je l'ai fait l'exercice de partir avec ma recette puis de la brasser dans une autre brasserie. Mm-hmm. J'ai vu les défis techniques que ça représentait. Puis même avec toute la bienveillance du monde, avec toutes les connaissances théoriques, techniques, une bière brassée dans une brasserie avec le kit de la brasserie, l'opérateur de la machinerie, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour arriver avec un produit fini que quand tu sors cette bière-là de sa brasserie, c'est pratiquement sûr à 100% qu'il va y avoir des micro-ajustements et des micro-différences entre le produit. Même chez nous, à Brasseur sur demande, quand c'est moi ou un assistant brasseur qui brasse la même bière, des fois, je vois des fluctuations sur certains aspects de la bière. Oui, c'est la façon que tu opères les machines, la façon de traiter certains aspects de la recette. T'sais, on essaie le plus possible de standardiser la chose, mais ça reste de la bière artisanale. Okay? On n'est pas Anheuser-Busch ou Labatt avec où ce que les brasseries sont un petit peu éparpillées partout sur la planète, puis c'est standardisé au pouce carré, même si c'est à plus petite échelle. Il y a tellement de facteurs à contrôler qu'à un moment donné, ça devient difficile de dire que si je te donne ma recette, tu peux la recréer chez vous.
Oui.
C'est absolument pratiquement impossible. Tu vas arriver à quelque chose qui ressemble. Est-ce que ça va être la même chose?
Est-ce que c'est le genre d'affaires que, justement, même si tu utilisais toutes les mêmes affaires, tu rajoutes 1% d'un truc, ça change complètement?
Oui. Je te dirais que tout est mesuré de façon très, très précise, puis on essaie d'avoir le plus d'exactitude, que ce soit dans la quantité des ingrédients ou dans la façon d'opérer les équipements. Même la température de fermentation, si ça oscille d'un degré, wow, d'une batch à l'autre, ça peut affecter complètement le profil de saveur d'un produit. Le moment où tu ouvres ta cuve pour ajouter du houblon dedans, si t'as attendu une journée de plus versus la batch d'avant ou une journée trop tôt, ça aussi peut avoir un impact. Fait que il faut faire vraiment attention à être le plus rigoureux possible pour imposer des standards, mais en même temps, il y a une limite aussi à... Comment je dirais bien? Faut que ça reste artisanal aussi. S'il y a un lot, d'un lot à l'autre, ça bouge, ta bière bouge un petit peu, il y en a pour qui c'est la fin du monde. Moi, je me dis... On est une brasserie artisanale, ça fait partie de la game.
Ouais.
Tu sais, à chaque année, le houblon est cultivé dans les champs de houblon aux États-Unis ou peu importe, ou en Europe. Puis d'une année à l'autre, le houblon, il ne goûte pas la même chose. Fait comment moi je fais pour, d'une année à l'autre, quand je reçois différents lots de houblon, m'assurer que mon IPA goûte la même affaire? J'ai pas de contrôle là-dessus. Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Puis c'est ça qu'on fait ce qu'on peut pour assurer à notre clientèle, tu sais, une certaine régularité. Parce que le client qui achète, mettons, mon IPA nordique, puis qui tripe sa nordique depuis des années, quand il y a un lot qui ne coûte pas tout à fait la même chose que d'habitude, il va s'en rendre compte. Mm-hmm. Puis moi, je ne fais pas par exprès pour faire fâcher mon client. Mais il y a des trucs, des fois, qui sortent de mon...
De
mon contrôle, qui ne sont pas de mon contrôle exactement. Un peu comme ça, comme je t'expliquais. Un lot d'houblon qui n'est pas tout à fait pareil comme d'une année à l'autre. Puis même si je demande à mon fournisseur, peux-tu t'assurer d'avoir exactement le même houblon que l'année passée? Ben, le cultivateur, lui, il m'envoie ce qu'il a cultivé. J'ai une limite là, à ce que je peux contrôler aussi. Là.
C'est malade. Je pense vraiment de passer de chansonnier à micro-brasseur. À brasseur.
T'as pas le choix, c'est ça le parcours.
Ben, de toute façon, je suis pogné. Caso, audition, musique, brasseur. C'est obligatoire.
Tiens, de refaire un tour, je te ferai un étudiant d'un jour.
Oui. Hey,
ça existe-tu pour de vrai? C'est clairement de quoi qui m'intéresse.
Écoute, ouais, moi pour de vrai aussi, j'aimerais ça.
Les flots à la brasserie.
Il y aurait de quoi à faire, mais je vais vous expliquer la même chose que j'explique à tout le monde. Nous autres, à Brasseur sur demande, on a un côté... On s'appelle sur demande pour une raison. Oui. On en rentrera peut-être dans le vif du sujet tantôt. Là. Mais quand un client vient nous voir et dit « Je peux-tu voir venir la journée que ma bière va être brassée? » Ben oui, tu peux. Mais moi, ce que je réponds tout le temps, c'est que c'est pas particulièrement trippant avoir une journée de brassage. Je vous expliquais en entrée de jeu que ce que je fais, c'est 80% du nettoyage dans une journée. Ouais. Puis le mouvement là, typique du brasseur qui est perché au-dessus de sa cuve, un peu comme une sorcière avec son chaudron puis qui brasse ses céréales, ben ça, je fais ça pendant 10 minutes en réalité dans ma journée. Le reste de ma journée, c'est de m'assurer que mes équipements soient propres, de prendre des lectures, de faire du ménage, d'organiser mes opérations journalières. C'est pas tant excitant visuellement pour un public venir voir une brasse. Fait que, tu sais, le client, souvent, il est un peu déçu de ma réponse. Puis quand il vient, puis quand il insiste pour être là, il vient voir, puis finalement, ben, il se rend compte rapidement qu'il est plus dans mes jambes que d'autres choses. Mais c'est ça. C'est visuellement, c'est pas comme donner un spectacle. Okay. C'est pas aussi trippant. Là,
mais hors ongle, pendant la pause, j'aurais peut-être une proposition à te faire. En tout cas, je vais t'en parler.
Je serai à l'écoute.
Hors onde, parce que en onde, moi, je trouve ça chiant. C'est quoi, c'est... Donc, t'acceptes?
Ouais,
t'acceptes?
Mais il y a comme pas le choix.
Il y a comme 2000 personnes qui t'écoutent en ce moment. Hey, puis j'aurais peut-être une dernière question.
2000, oui, vous avez un méchant reach, c'est bon?
Pas oui, plus, puis. Hein?
Félicitations.
Merci. Ben, écoute, merci. Je sais pas quoi dire, j'étais trop rouge. Hey, puis j'aurais peut-être une dernière question avant qu'on parte justement en pause. Toi, t'as-tu, dans vos bières, là, t'as-tu une bière que justement. Que tu capotes dessus, que t'es fier d'avoir créé. T'es comme, hey, j'ai mis de la coriandre cette fois-là, puis Christy, c'était une meilleure décision.
Écoute, mettre de la coriandre dans une bière, ça se fait depuis des centaines d'années, fait que j'irais pas avec une bière à coriandre,
c'est
sûr.
Ça,
c'est pas très original. Je vais te faire une réponse courte. Oui, j'ai trois bières dont je suis particulièrement fier à la brasserie, là. La première, c'est elle s'appelle la Petite Nordique. C'est la petite sœur de la bière que vous avez bu tantôt. Okay. Une bière à 3,5%. Hyper peintable. À 3,5, on peut en prendre plusieurs dans une soirée sans avoir en subir les conséquences.
Oh, même 5%.
Puis le 3,5% le taux faible d'alcool, pour moi, représentait un défi parce que je voulais conserver le corps et la rondeur d'une bière plus forte. Puis c'était techniquement pas aussi simple que je le croyais. Fait que ça a pris énormément de travail avant d'arriver avec un produit dont j'étais fier, puis j'étais « OK, c'est beau, c'est ça la recette, puis on n'y touche plus. » Fait que ça, c'en est une. Puis sinon, nos bières barriquées. Nos bières barriquées, ça a été une courbe, c'est un projet très autodidacte parce qu'on n'avait personne à la brasserie qui savait en faire de la bière barriquée. Puis ça, c'est pas aussi simple que de dire « J'achète un tonneau de bourbon, puis j'envoie ma bière dedans. » C'est plus complexe que ça, puis ça me faisait peur un peu comme projet à la base. Puis, il n'y avait personne pour me le montrer, me l'expliquer. Fait que encore une fois, il a fallu que j'achète des livres, que j'aille me documenter, que je pose des questions à gauche, à droite. Puis, le premier produit qu'on a sorti barriqué était juste incroyable. Okay. J'en salive encore. Il n'est plus disponible nulle part. On l'a tout bu. Ouais, fait que notre première bière barriquée, ça, c'était une grosse fierté aussi jusqu'à présent. Ouais. À cause de la courbe d'apprentissage que ça représentait.
Oh, c'est génial.
Okay, c'est génial.
Oui, je trouve ça, c'est le meilleur épisode de l'Ancien Patrick qu'on aurait pu avoir. Hey, ben regardez, nous, on va aller faire une petite pause. En fait, tant qu'à faire, tu m'as donné envie. On va faire une petite pause musicale.
Oh, non.
Tant qu'à être dans la Saint Patrick, nous autres, on est en studio avec Hugo Charland, finalement, brasseur et anciennement chanteur international, bordel. Yep. Ça, on en a parlé un petit peu, mais là, en tout cas, il faudrait en entendre un peu plus. Je trouve ça génial. On part, comme j'ai dit, en petit segment musical avec... non, mais c'est très commercial là, comme chanson. Là. C'est, tu connais ça, c'est sûr. Là. On part en... Je me suis dit, qu'est-ce qui est irlandais? C'est clairement pas irlandais, c'est du Dropkick Murphys.
Ah, c'est I'm Shipping Up to Boston.
Non, c'est pas I'm Shipping Up to Morrison. Boston, ouais. En tout cas, nous, on part en pause musicale. On vous met Dropkick Murphys, Rose Tattoo et on revient très bientôt. Vous écoutez toujours le show des Trois Flots.
Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I
through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name.
Écoutez le show des trois flots. Vous écoutez le show des trois flots.
Et 7h44, c'est toujours le show des trois flots. Bien sûr, ce genre de CJMD, comme vous le savez très bien, tous les dimanches soirs pour cette Saint-Patrick, pour célébrer. Je sais parmi vous, il y a des personnes qui vous écoutent, qui s'en vont en ce moment à des bars. Qui prévoit faire le party ou qui prévoit boire une bière. Mais pour ce soir, boire une bière, on vous conseille mon brasseur.
sur demande. Parce qu'on a Hugo Charland en studio avec nous. Ça va toujours bien, Hugo?
Toujours, toujours, toujours. Je suis en train de perdre la voix, là, comme je disais tantôt, j'avais plus la voix fragile, là, mais heureusement, il en reste moins long à faire. Il en reste moins long.
Alors, il n'y a aucun stress à nouer. On fait un petit stretch de 5-10 sans aucun problème. On se demandait, là, on a beaucoup parlé justement de ton background, de qu'est-ce que mon brasseur sur demande fait, mais on a beaucoup parlé de comment on fait de la bière et comment votre microbrasserie marche. Mais il y a une partie assez importante de votre entreprise qu'on n'a pas encore touchée, qui était la brasserie sur demande que plusieurs entreprises connaissent, que même je pense que CJMD a déjà utilisé, parce que je me souviens avoir déjà bu de la bière dans ces studios-là de vos produits. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler? C'est quoi la brasserie sur demande?
Oui, en fait, la brasserie sur demande, comme tu l'appelles, c'est plus... C'est le brasseur sur demande. C'est vraiment au cœur de l'histoire de la brasserie. C'est qu'initialement, brasseur sur demande, c'est né d'un besoin.
Oui.
Les gars s'étaient fait approcher pour brasser un petit volume de bière custom sur demande. Une bière qui n'existait pas. Puis ils en voulaient un petit volume. Il n'y avait pas de brasserie à l'époque. Fait qu'ils ont approché des brasseries pour le faire. Puis tout le monde leur disait, ben, c'est un volume-là. On fait pas ça. Ça vaut pas la peine. Il n'y en a pas assez. Fait que là, ils ont flairé une opportunité d'affaires. Puis ils se sont dit, ben, si personne ne le fait, pourquoi est-ce que nous autres, on n'ouvrirait pas une brasserie puis on le ferait pas? Puis là, c'est comme ça que c'est parti. Puis dans notre ADN, c'est vraiment ce qu'on offre à la base. C'est... Toi, tu as un projet, tu vas avoir ta bière custom avec ton nom dessus ou tu as une entreprise, tu veux donner des cadeaux pour le party de Noël ou tu veux en offrir, peu importe, tu es un dépanneur puis tu veux vendre ta bière avec le nom de ton dépanneur dessus, ben, tu nous approches. On s'assoit avec toi, on désigne ta bière en fonction de tous les critères que tu veux avoir dans, de ton produit. Puis je désigne une bière, je fais un test. Si le test est concluant, qu'on y goûte, que tu es content de ta bière, on part en production. S'il n'est pas correct, le test, ben, je refais d'autres choses. Je retourne dans la barre dessin puis je réajuste le tir. Jusqu'à ce que tu sois content du produit qu'on t'offre. L'autre volet qu'on a à ça, c'est dans le sur-demande, c'est toutes nos bières qu'on brasse sont disponibles. Si toi, tu veux venir à la brasserie puis en acheter un petit lot, puis mettons, faire ton étiquette puis mettre ta face dessus là, avec deux thumbs up. Là. Si vous voulez la bière des trois flots, ben c'est possible. Vous venez à brasser sur demande, on s'assoit, vous goûtez aux bières qu'on a disponibles, puis qu'on fait. On désigne votre étiquette, on vous la met dessus, puis c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de qui on est. C'était vraiment... Là, il y a de plus en plus de brasseries qui le font. Là, je vous vois sourire. D'après moi, je viens de planter une graine qui va germer dans pas long.
On planté une idée, là.
Je suis tout heureux.
On s'en parle.
Boire ma bière avec ma face sur l'étiquette, ça me rendrait vraiment content. Mais bref, continue.
Ouais, ben, il n'y a pas beaucoup plus à dire que ça. Ça fait vraiment partie de nos activités. Rémi, là, qui est à la direction des ventes, c'est lui qui chapeaute tout ce projet, tout ce dossier-là. Que ce soit avec les clients, puis il donne les options, c'est-à-dire qu'est-ce qui est disponible comme produit ou est-ce que vous voulez un brassin custom. C'est sûr que si vous voulez une bière unique qui est à vous, il y a un minimum de volume, là, on s'entend. Moi, je peux pas partir une production pour 5 caisses de bière. J'ai pas les cuves pour ça. Mais si vous voulez, mettons, 5 caisses de notre IPA nordique, mais vous voulez la renommée, la bière des trois flots, ben c'est tout à fait ce qu'on fait au quotidien, nous autres. Là. C'est notre pain et notre beurre.
C'est trop hot.
Ça serait malade. On se promène pour donner des canettes.
On a un projet.
Oui, on s'en reparle pour de rien. Parce que je pense qu'il y a quelque chose.
Projet. Mais ce que je faut que je comprenne, là, c'est. Je comprends le côté de l'étiquette.
Ouais.
Mais le côté de la bière, c'est quand même une méchante bonne idée. Mais est-ce que finalement le gars y arrive? Mettons nous autres, là on a. Mettons on devient big, là, on a du volume, on a du budget, on veut faire notre propre bière au goût qu'on veut. Est-ce que c'est fait avec un formulaire? C'est comment j'arrive, je te dis je veux de la framboise? Ou c'est...
Oui, ben c'est sûr. C'est sûr. Là, la première chose qu'il y a à faire, faut contacter Rémi. T'expliques ton projet à Rémi. Rémi va te céduler un rendez-vous avec lui puis moi. Tu t'en viens au salon de dégustation, ça, on s'assoit. Si tu as une idée du type de bière que tu veux avoir, on va aller en acheter dans ce style-là. Ben, on va faire une dégustation. Puis à gauche, à droite, on va dire ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime un petit peu moins ça. Y a-tu moyen de marier tel aspect de telle bière avec telle pour avoir mon produit? Puis moi, j'écoute, je prends des notes, puis je désigne la bière en fonction de ce que tu décides d'avoir. C'est quoi ta question de base?
Je me demandais d'avoir l'entreprise à l'arrive et elle te demande qu'est-ce qu'elle veut directement. C'est ça.
Oui, exactement. Des fois, il y a du monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent une bière qui n'existe pas, puis ils s'assoient avec moi, puis on leur fait goûter à l'éventail de nos produits. Dire, voici ce qu'on offre. Y a-t-il quelque chose dedans qui t'allume, qui t'intéresserait, ou t'aimerais-tu avoir une variation d'une telle bière? Des fois, les gens ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. Des fois, ils ont des idées très, très précises. J'ai des brasseurs maison, des fois, qui viennent me voir et qui disent « Je veux ma bière en plus gros volume. » Puis eux autres, là, ils arrivent avec leur recette, puis il faut que je respecte toutes les virgules de des aspects de leur recette. Puis c'est normal. C'est des brasseurs. Ils connaissent un peu plus ça. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Puis il faut que je respecte ça. Puis c'est parfait. Mais il y a des fois, du monde qui me dit « Ouais, ben je... Moi, je suis propriétaire de blocs, appartements, j'aimerais savoir de la bière à donner à mes nouveaux locataires ou à mes locataires pour chaque renouvellement de bail. Je sais pas trop ce que je veux. Là. OK, voulez-vous une bière accessible, blonde, de soif? Vous voulez une blanche belge? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas trop. Là. Fait que là, on décapsule des bières. On goûte. Puis quand ils trouvent quelque chose qu'ils aiment, un filon, ben là, on part là-dessus, puis on désigne quelque chose qui va lui plaire au final. Fait que c'est comme ça pas mal que ça se fait.
C'est tellement intéressant. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de variation de microbrasserie. Ouais. Ça doit amener un éventail supplémentaire de clientèle.
Exact. Oui, on pas le choix, c'est sûr. C'est allé à la base de notre modèle d'affaires. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les difficultés du monde brassicole, il y a plus en, qu'on connaît, il y a plus en plus de brasseries qui ont commencé à adopter un petit peu ce modèle d'affaires-là ou à ouvrir la porte, okay. À faire du sur-demande comme nous autres, on le fait. Mais nous autres, ce qui est le fun, c'est qu'on a... C'était là dès l'ouverture de la brasserie. Donc, on a une expertise, on a une longueur d'avance, on a une possibilité aussi de faire des tout petits lots que d'autres brasseries n'ont pas. Donc, on est encore là au cœur de cette espèce d'offre-là. On tient notre épingle du jeu comme ça.
Êtes-vous les pionniers, en fait, du sur-demande à Québec?
Les pionniers... Je pense, je peux confirmer qu'il y en a eu qui en ont fait avant, mais qui n'en ont pas nécessairement fait leur modèle d'affaires principal. Comme nous autres, c'était au cœur de qui on était. Je veux pas utiliser le mot pionnier, je trouve ça prétentieux, mais je pense pas qu'il y a des brasseries avant nous pour qui ça faisait partie de leur identité autant que nous autres. C'est dans notre nom, brasseur sur demande. On n'a pas choisi ça parce qu'on trouvait ça cute. Là. Ben, je dis on, j'étais pas là au départ, mais vous comprenez ce que
absolument.
Je veux dire. Là. Ouais, voilà.
Ok. La bière trois flots, ça s'en vient.
Ouais, c'est ça. Quelque chose en vrai.
Parce que j'étais allé voir sur leur site internet tout à l'heure. Tu sais, il y a quelque chose d'être vraiment fier justement. Tu sais, peut-être que vous n'êtes pas les pionniers ou quelque chose. C'est dur à tirer ce maudit mot-là. Mais je trouve vous avez quand même déjà réussi à tellement attirer des grosses compagnies. Tu sais, je voyais des bières de mallette, des bières d'entreprises quand même fondées comme ça. Bientôt, le show des trois flots qui est comme encore plus big.
2000 auditeurs à tous les dimanches.
Oui, exactement. C'est plus que les auditeurs que de mallette si starter un podcast.
Absolument.
Ils n'ont pas de podcast. Mais c'est quelque chose que vous pouvez être vraiment fiers, tu sais, finalement. Ouais. Est-ce que tu sais, ça ressemble à quoi un peu le futur? Est-ce qu'il y aura un développement de produits ou quelque chose?
Je suis constamment en communication avec mes partenaires par rapport aux nouveaux produits qui s'en viennent. Pour ce qui est du futur et du développement à l'interne, aux ventes, je peux pas me prononcer. Ce que j'aime dire tout le temps, pas parce que je veux m'en laver les mains, mais moi, je fais la bière, je la vends pas. Fait que je ne sais pas nécessairement avec qui Rémi fait affaire en ce moment. Il est tout le temps au téléphone, il est tout le temps en train de travailler sur plein de projets, puis il a tout le temps des bonnes idées. Puis quand ça se concrétise, ben là, c'est là que j'en entends un peu plus parler, puis parce que ça tombe dans ma cour, parce que là, on a besoin de volume, on a besoin de bière, on a besoin de variété. Mais pour ce qui est du futur, je peux te dire qu'on travaille là en ce moment à préparer notre été, à avoir du volume pour de la bière de soif, travailler sur nos nouvelles bières à quantité de calories diminuée, faible en pourcentage d'alcool. C'est vraiment... On essaie de voir à moyen et long terme, mais en même temps, le futur proche, c'est vraiment préparer l'été, arriver avec du volume puis des bières fraîches, bonnes, que tout le monde va aimer, puis avoir du fun tout l'été. C'est vraiment ça, ce qui est dans ma cour pour l'instant.
Alright, ben je trouve
c'est
un bon plan. Il n'y a pas une meilleure façon de conclure cette émission-là. Un méchant bon épisode de la Saint-Patrick. De toute façon, on va rester en contact puisque nous, il faut venir prendre des petites bières sur la terrasse de votre
quelques
microbrasserie.
Petites.
Oui, quelques. Ben, tant qu'à faire. 10
plus.
Oui, c'est ça.
Il
n'y
a personne qui compte. Il n'y a personne qui compte.
Oui, puis on n'habite pas à Limoilou. Fait que tant qu'à se déplacer,
on va en profiter
aller,
pour la peine.
Et voilà. Ben oui. C'est pas parce qu'on aime ça, c'est juste parce qu'on rentabilise.
C'est le devoir, c'est notre devoir en tant que...
C'est difficile à porter sur son dos autant de responsabilités, mais on sera présent. Merci beaucoup, Hugo Charland, en fait, de mon brasseur sur demande. Est-ce que tu as des réseaux sociaux à plugger, de l'entreprise, des choses comme ça?
Oui, on est sur Facebook, on est sur Instagram, brasseur sur demande. Puis pour tout ce qui est le volet custom, j'en ai pas parlé, mais on a une page web qui est plus facilement accessible que juste brasseur sur demande. Ça s'appelle tabière.com.
Ah,
ça, c'est notre pager, une page où il y a un formulaire où tu peux demander une demande de soumission, une demande de rendez-vous être directement avec Rémi pour si tu veux avoir de l'information sur le sur-demande. Mm-hmm. C'est beaucoup plus, c'est un outil qu'on s'est donné parce qu'on trouvait ça un petit peu plus simple que d'avoir à passer au travers de nos bières génériques qui sont disponibles en épicerie. Puis on voulait comme pas dissocier les deux aspects de l'entreprise. On voulait juste faciliter un petit peu l'approche au custom. Donc, tabière.com, si que vous avez des demandes ou si dans votre auditoire, il y a des gens qui sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait chez nous, tout simplement.
Excellent. Et Antoine, nos réseaux sociaux?
Nos réseaux sociaux, yes, vous pouvez nous contacter ou juste simplement regarder nos pages sur Facebook, Instagram, Le Show des Trois Flots, ainsi que sur TikTok, Les Trois Flots. N'hésitez pas également à aller réécouter notre podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ainsi que Acast.
Et moi, on a peut-être une petite plug commerciale à faire à la fin. C'est l'Expert, que je ne sais pas si vous connaissez, qui est un leader dans la réparation d'appareils mobiles et la vente d'accessoires pour cellulaires d'origine Beauceronne. Je ne sais pas si vous connaissez Rideau Shield, la fameuse Rhino Shield.
Oui. Absolument.
Qui est, je crois, un leader, en fait, dans la plug YouTube. Ils viennent de signer un partenariat avec en fait l'entreprise française. Donc, tous les produits Rhino Shield seront disponibles chez Cellexpert dès maintenant, finalement, dans tous les magasins. Donc, voilà. C'était la petite pause pub. Et j'ai envie de dire, est-ce que je fais le mot de la fin ou tu le fais?
Tu peux y aller si tu veux.
Je peux y aller. Oh mon Dieu!
Je te laisse le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Je sais pas si toi, tu l'as déjà fait. Parce que c'est Nick et moi, d'habitude.
Stress monumental. Vas-y. All right, peux-tu me lancer le jingle?
Oui. Sam, le mot de la fin.
Oui, Antoine, ben c'est la Saint-Patrick ce soir. Donc, pour tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, on vous invite à aller fêter, mais de façon responsable quand même, parce que demain, on ne travaille. La semaine prochaine, on revient. Restez là avec nous. Bisous, bisous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.